Europe 1,
18h-20h,
votre grand journal du soir,
Nathalie Lévy.
Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver pour votre grand journal du soir jusqu'à 20h sur Europe 1. À la une de l'actualité ce soir, l'opération calinothérapie du ministre de l'Intérieur aux policiers des syndicats reçus cet après-midi et demain aussi place Beauvau. Mais est-ce que le résultat est là? On en parle dans un instant dans votre journal, Sébastien Krebs. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
18h20 justement, il sort du bureau de Christophe Castaner, il menaçait de ne plus faire d'interpellation. Yves Lefebvre, le secrétaire général de l'unité SGP Police FO, est mon invité dans ce studio dans 20 minutes maintenant. 18h30, les grandes voix. Catherine Ney, Michel Cotta, le face-à-face ce soir. On parlera de l'état de la majorité alors que le président parle évidemment dimanche aux Français. Vos questions, c'est au 39-21. Et puis après 19h, demain, la mise en place de la plateforme Vacances Apprenantes. Je reçois le secrétaire d'État à la jeunesse, Gabriel Attal. Et puis à 19h30, faut-il travailler plus pour sauver l'emploi? Qu'attendent les patrons de l'intervention présidentielle? Et c'est là que je vous attends nombreux au 39-21, hashtag Europe 1. Vous connaissez le programme de ce jeudi soir. On écoute ensemble le monde changer. C'est parti jusqu'à 20h et c'est sur Europe 1. Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
Le policier doit se sentir rassuré avec un ministre qui est derrière, mais non pas dans le sens du vent. Donc arrêtons de mettre la police nationale au pilori.
Ils se sentent lâchés par leur ministre. Rencontre houleuse cet après-midi, place Beauvau, entre syndicats policiers et Christophe Castaner. Le discours sur les méthodes et le racisme ne passe toujours pas.
Et un appel est lancé pour que les agents déposent leurs menottes au sol ce soir même.
Après les statues déboulonnées, les plaques de rue changées, travail mémoriel à Bordeaux sur le passé négrier de la ville. Dans ce journal aussi, l'enquête relancée sur les accusations de viol visant Gérald Darmanin.
Et jamais l'économie française n'avait détruit autant d'emplois, 500 000 en un trimestre.
À suivre le plan de la Commission européenne pour rouvrir les frontières et les stars du foot espagnol qui vont retrouver les stades.
Messi à l'arrière, remata, que gol, que gol, que gol, que gol.
Et la radio qui va pouvoir à nouveau s'enflammer, la Liga reprend ce soir. La Bourse de Paris dans le rouge, fort repli de 4,7% à 4815 points.
Bonsoir et bienvenue à Anissa qui nous donne la couleur du ciel.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Nous avons actuellement en France 8 départements placés en vigilance orange, pluie, inondation. Nous sommes sous l'influence de cette goutte froide. Hein. C'est une dépression avec de l'air froid. On savait que ça allait être très agité, ça l'est. Et d'ailleurs, les inondations et les fortes pluies en Corse, on y revient dans un instant dans votre journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs.
Après la tolérance zéro, les menaces de suspension au moindre soupçon de racisme, la remise en cause de certaines méthodes d'interpellation, voici l'opération calinothérapie. Les syndicats policiers reçus les uns après les autres par le ministre de l'Intérieur. Ça a commencé au début de l'après-midi. Bonsoir Alain Accaud.
Bonsoir.
C'est même toute la hiérarchie policière qui s'y est mise et qui joue l'apaisement. Mais à ce stade, ça n'a pas l'air de suffire. La colère ne retombe pas.
Non, de toute évidence, les mots ne suffisent plus. En tout cas, pas les mots de réconfort du directeur général de la police nationale et du préfet de police de Paris qui, chacun dans leur style, ont écrit à leurs troupes. Ils les assurent qu'ils partagent leurs sentiments de profonde injustice face aux critiques, qu'ils sont fiers d'eux, qu'ils les soutiennent. Ne doutez pas de vous, ne doutez pas de vos patrons. Mais c'est bien ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de policiers ont le sentiment d'avoir été lâchés par leur grand patron, Christophe Castaner. En sortant tout à l'heure de la place Beauvau, après l'avoir rencontré, les deux principaux syndicats de gardiens de la paix étaient quasiment sur la même ligne. Écoutez Fabien Van Emmerich, secrétaire général du syndicat Alliance.
Pour l'instant, on n'a pas répondu à nos attentes. Nous, on lui a demandé certaines exigences, à savoir revenir sur ce qu'il a pu dire sur la technique d'intervention, faire en sorte de dire aux collègues une bonne fois pour toutes que la police n'est pas raciste et arrêter ce soupçon vis-à-vis d'elle, notamment, et cette présomption de culpabilité. Le ministre, il m'a dit qu'il soutenait les policiers. Nous lui avons dit qu'il ne les soutenait pas de la bonne façon et plutôt mollement pour nous. Le policier doit se sentir rassuré avec un ministre qui est derrière, mais non pas dans le sens du vent, avec une adaptation par rapport au climat social régnant. Donc arrêtons de mettre la police nationale au pilori.
Alliance annonce déjà une action forte et hautement symbolique demain à Paris. Le SGP, lui, n'a pas attendu. Dès la fin de l'après-midi, comme hier à Nice, à Toulouse et à Roubaix, des centaines de policiers se sont rassemblés devant leur commissariat pour jeter leurs menottes au sol.
Alain Acco du service police-justice avec Jeanne Bergaoui.
Et on va y revenir longuement hein, avec mon invité ce soir, Yves Lefebvre du syndicat Unité SGP Police. Il estime que Christophe Castaner a perdu la confiance des policiers. Je l'interroge juste après ce journal.
Faut-il rétablir la liberté de manifester ? Le Conseil d'État doit répondre à cette question. Il a examiné aujourd'hui plusieurs recours déposés par des syndicats et des associations, alors que plusieurs rassemblements ont été interdits au nom de l'état d'urgence sanitaire. La décision sera rendue dans les prochains jours. Et le sujet devrait aussi être au menu des réunions du Conseil scientifique et du Conseil de défense demain à l'Elysée sur la poursuite du déconfinement. Quels assouplissements en vue ? On y reviendra à 19h.
Faut-il faire table rase du passé ? Dans ce contexte de tensions ravivées autour du racisme, on a vu des statues déboulonnées par des manifestants en Grande-Bretagne, aux États-Unis aussi.
Oui, celle représentant Christophe Colomb, notamment à Miami ou encore à Boston. Et s'il y a bien une ville en France marquée par le passé esclavagiste, c'est bien Bordeaux qui a prospéré au XVIIe siècle grâce à la traite et dont certaines rues portent encore le nom de riches armateurs, d'où l'initiative de la mairie Stéphane Place. Des plaques ont été changées aujourd'hui. Est-ce que Stéphane Place est avec nous ?
Oui, celle de la rue David Gradis, par exemple. Désormais, la plaque de rue précise que la firme de ce notable bordelais a armé au XVIIIe siècle 10 navires pour la traite des Noirs. Des notices biographiques comme celle-ci rappellent le passé et la sinistre activité des hommes dont 5 rues bordelaises portent le nom. L'adjointe au maire, Maric Fétou.
On n'est pas là pour censurer, on n'est pas là pour réécrire l'histoire, on est là pour faire de la pédagogie et faire en sorte que les générations aujourd'hui puissent prendre conscience que ces crimes odieux ont été perpétrés, y compris dans notre ville. À Bordeaux, on n'a pas voulu effacer les traces de l'histoire. Il y a un consensus fort pour faire de la pédagogie mémorielle et faire en sorte que ces traces puissent servir aux jeunes générations et à la société de demain.
Rappeler le passé de ces personnages qui ont donné leur nom à ces rues, une démarche pas toujours suffisante aux yeux de ces bordelaises croisées cet après-midi.
Je vois pas du tout pourquoi des rues porte leur nom. La rue n'a pas à s'appeler comme ce genre de personne.
Ça permet aux Bordelais de s'approprier son passé. Justement, c'est un devoir de mémoire de rappeler l'historique, mais en resituant dans son contexte culturel de l'époque.
C'est déjà pas mal, ça cultive les gens, mais bon, c'est pas assez. Il faudrait que ça aille plus loin maintenant.
Vous pensez qu'on pourrait carrément changer le nom de la rue ?
Oui, pourquoi pas.
Sur chacune de ces 5 plaques explicatives, il y a aussi un QR code que l'on peut simplement déclencher avec son smartphone et qui renvoie à des explications historiques encore plus détaillées.
Et on va y revenir. Stéphane Place était à Bordeaux, bien sûr. On va y revenir avec les grandes voix à 18h30, Catherine Ney et Michel Cotta.
Et puis à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques, là, c'est une statue commémorant l'abolition de l'esclavage qui a été vandalisée. Le buste en bronze d'un esclave noir enchaîné a été aspergé de peinture blanche avec une inscription « White Lives Matter », les vies des Blancs comptent. Slogan détournant, bien sûr, celui du mouvement américain « Black Lives Matter ».
On en vient maintenant à cette enquête visant le ministre des Comptes Publics, Gérald Darmanin. Une enquête en fait relancée sur des accusations de viol.
Et 3 ans après la plainte initiale et 11 ans après les faits, c'est la Cour d'appel de Paris qui ordonne la reprise des investigations. Marion Dubreuil, cette affaire avait pourtant été classée sans suite. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui de rouvrir le dossier ?
Eh bien, c'est uniquement une question de procédure. Il n'y a pas de nouveaux éléments. La justice s'est déjà prononcée à 2 reprises, un classement sans suite, puis un non-lieu. Mais à chaque fois, Sophie Patterson, la plaignante, a déposé un recours en estimant notamment que certains actes d'enquête n'avaient pas été effectués. Elle n'a par exemple jamais été confrontée à Gérald Darmanin, qu'elle accuse de viol en 2009. La Cour d'appel de Paris estime aujourd'hui que le non-lieu ne pouvait pas se fonder sur les résultats de l'enquête préliminaire. Mais elle ne se prononce pas sur le fond. Elle demande donc la reprise des investigations, un soulagement pour Sophie Patterson, qui attend désormais, je cite, une véritable enquête. De son côté, Gérald Darmanin rappelle par la voix de ses avocats qu'il a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse.
Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1.
Le chiffre est littéralement spectaculaire. Hein. Jamais l'économie française n'avait détruit autant d'emplois en un seul trimestre.
1,5 million d'emplois disparus en 13 semaines, confirme l'INSEE. Et cela ne prend en compte que le tout début du confinement, puisque le compte a été arrêté fin mars. Sur l'année, le gouvernement s'attend à 800 000 suppressions d'emplois. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, souhaite un retour à la normale de l'activité économique cet été.
Et plusieurs départements étaient en vigilance orange aux pluies, inondations et orages aujourd'hui, la Bretagne hein, notamment, mais pas la Corse qui ne s'attendait pas du tout, mais alors pas du tout aux pluies torrentielles qu'elle a subies.
Hein. L'eau est montée très vite à Ajaccio, image impressionnante de voitures emportées par les eaux dans le quartier des Salines. Il a fallu mettre 200 personnes à l'abri, certaines ont dû se confiner dans une crèche, d'autres dans une école. Écoutez le témoignage de Daniel, le gérant d'une marbrerie, il a tout perdu.
Oh, c'est impressionnant, il a plus 2 heures, hein. C'est un torrent. Hein. Je n'ai jamais vu monter l'eau aussi haute. 2 mètres, 2 mètres 30. Ah oui. Et plus ça va, plus elle monte haute. Il a commencé à pleuvoir. À midi, je lui ai dit, allez, on s'en va. Il a fallu que j'évacue la voiture parce que je me faisais emporter avec la voiture. Il y a eu des voitures emportées. J'ai une voiture qui a été emportée 100 mètres plus haut. Elle est rentrée à la Marbrerie. Elle a fait le tour de la Marbrerie en flottant. Je n'ai plus d'accès pour rentrer à ma Marbrerie. Il n'y a plus de route. Voilà, je sors de 2 mois de confinement. Et là, maintenant, je n'ai plus rien. Je ne sais pas comment je vais faire. J'ai téléphoné à l'assurance, mais je ne sais pas. Je suis fatigué, madame. Et les remorqueuses qui commencent à arriver maintenant. Et voilà, hein. Un désastre.
Un témoignage recueilli par Yasmina Katou. Demain, la météo devrait se calmer, nous dira Anissa à la fin du journal Météo Complète à suivre.
Europe 1. Votre grand journal du soir, c'est avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
Les frontières de l'Europe, elles vont s'ouvrir progressivement. Et dès la semaine prochaine, la Commission européenne accélère tous les détails. C'est à suivre dans votre journal de 18h.
Et puis, vous connaissez la passion du foot pour les Espagnols. Imaginez l'euphorie. La Liga reprend ce soir. Nous sommes sur place à Barcelone.
Europe 1.
18h10 sur Europe 1, la suite du journal avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
Et l'Europe qui veut rouvrir ses frontières, les choses se précisent, la Commission de Bruxelles accélère.
Hein. Avec une confirmation, on s'oriente vers une réouverture des frontières intérieures de l'Union le 15 juin, donc dès la semaine prochaine. Quant aux frontières extérieures de l'Europe avec les pays plus lointains, là, ce sera progressif. Et là, il faut se tourner vers vous, Isabelle Horry, à Bruxelles, parce que ça s'annonce compliqué.
Et oui, très compliqué, les diplomates en ont la migraine. Alors commençons par ce qui est acté quand même. L'Europe veut se rouvrir progressivement au reste du monde à partir du 1er juillet. Alors maintenant, il faut dresser la liste des heureux élus. Bruxelles a proposé des critères. Écoutez la commissaire Ylva Johansson.
Le premier critère, bien sûr, c'est la situation épidémiologique dans le pays, même si dans certains cas, c'est difficile d'avoir des statistiques exactes. Le deuxième critère important, ce sont les mesures de distanciation pendant le voyage. Ça aussi, ça doit être en place pour que l'on puisse rouvrir à un pays tiers.
Alors le premier problème, c'est la fiabilité justement des données épidémiologiques. Hors micro, les experts expliquent leurs doutes sur celles de la Chine ou d'une partie de l'Afrique. Ensuite, l'Europe veut ouvrir seulement à ceux qui laissent entrer ses citoyens, donc à voir ce que ça va donner avec les États-Unis de Trump par exemple. Et enfin, il faut rester unis vis-à-vis de l'extérieur. Les États membres vont faire la liste parce que les frontières, c'est leur compétence. Or, chacun a ses amitiés internationales. Certains sont tentés par un geste isolé. Chypre a déjà rouvert à Israël, par exemple. Si chacun fait ce qui lui plaît, ça sera terrible en termes d'image. Et surtout, on risque de voir revenir les contrôles aux frontières intérieures pour empêcher justement les visiteurs de pays tiers non désirés. Alors voilà, les 27 ont un peu plus de 2 semaines pour se mettre d'accord sur cette fameuse liste. De l'avis de tout le monde, c'est court.
Voilà, gros chantier lancé, Isabelle Horry à Bruxelles. Des annonces que guettent bien sûr les compagnies aériennes, hein, toujours paralysées. Le premier groupe mondial, l'allemand Lufthansa, a l'intention de supprimer 22 000 postes dans le monde. C'est 16% de son effectif.
De son côté, l'Espagne, pays évidemment très touché, on s'en souvient, qui respire à nouveau. Et ce soir, on va retrouver cette ambiance qui a manqué.
Fallait aller jusqu'au but quand même, les commentaires endiablés de la radio espagnole qui reprennent après 3 mois d'arrêt la Liga. Le championnat de foot va reprendre avec 110 matchs à jouer en 6 semaines. Le retour sur les pelouses de Messi, de Benzema et des autres. Henri de Laguérie, vous êtes à Barcelone. On connaît la passion des Espagnols pour le foot. Ça y est là, c'est le vrai déconfinement, enfin chez vous.
Eh bien oui, hein, parce que le ballon rond rythme la vie des gens ici. Ils en étaient privés depuis la mi-mars. Ils vont pouvoir se rattraper car il y aura des matchs tous les jours jusqu'au 19 juillet avec ce soir pour la reprise le derby andalou à huis clos entre le Betis et le FC Séville. David est soulagé, il sera devant sa télé.
Franchement, c'était dur, ça m'a manqué. Oui.
Le virus n'a pas disparu, c'est raisonnable de jouer au football ?
Oui, je crois que ça va, tout est sous contrôle, pas de problème.
Voilà, un protocole strict sera donc respecté. Les joueurs sont testés avant chaque match. Pas de poignée de main ni d'accolade sur le terrain. Masque pour les remplaçants. Sans public, les téléspectateurs auront le choix entre le son original ou une ambiance virtuelle. Mais c'est un autre football, estime Pablo Polo, journaliste à Marca. Derrière le retour du ballon rond, il y a surtout des questions d'argent et un homme, Javier Tebas, l'audacieux patron de la Liga.
Par reprendre le championnat, on parlait des 600, entre 600 et 900 millions d'euros de perdre. À mon avis, c'est un coup de poker de Tebas. C'était risqué, évidemment. Et il a gagné, c'est sûr.
Voilà, et on pourrait assister à un retour des supporters au début du mois de juillet. Les stades pourraient alors se remplir à 30% de leur capacité.
Ouais, en attendant, ce sera à huis clos dans les stades, mais probablement pas devant les écrans, dans les bars, notamment. Henri de la Guérie, merci, correspondant d'Europe 1 en Espagne. En France, la jauge devrait rester fixée à 5000 spectateurs lorsque les matchs reprendront dans les stades.
Voilà, le ballon qui a recommencé à rouler en Espagne. Ça fait du bien sur place. Merci Sébastien Krebs, vous revenez
à tout à l'heure.
À 18h30, Anissa. On est vigilant parce que 8 départements sont en orange à l'heure actuelle. Hein.
Oui, effectivement, une vigilance orange pour les Côtes d'Armor, le Finistère, le Morbihan, la Haute-Loire, le Cantal, la Lozère, le Gard et l'Aveyron. Pluie, inondation et orages violents. Donc prudence dans ces secteurs. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le ciel en ce moment? Vous le constatez, la météo est très agitée. Eh bien, parce que nous sommes sous l'influence d'une goutte froide. C'est une dépression avec de l'air froid en altitude qui nous vient des îles britanniques. Donc, ça ne fait pas que nous apporter des températures en baisse, mais ça nous apporte aussi beaucoup d'agitation. Alors demain, sur une bande centrale qui va des Hauts-de-France jusqu'au Languedoc, en passant par la région parisienne, le centre, l'Auvergne et les Cévennes, eh bien là, demain, c'est encore une journée très pluvieuse. Des pluies qui seront soutenues dès le début de la journée, avec d'ailleurs sur le massif central et les Cévennes, des orages localement violents, grande prudence. À l'avant de cette perturbation sur la façade est, eh bien là, le ciel est nuageux, mais le temps reste sec, le temps reste calme, et d'ailleurs, c'est le retour au calme, bonne nouvelle, en Corse, sur l'île de Beauté qui a été vraiment violemment touchée aujourd'hui. Sur la façade atlantique, de la Bretagne aux Pyrénées, le soleil fait son retour, là aussi c'est une belle journée. Et dans la moitié sud, soyez prudents parce que c'est le vent du sud qui se lève et qui souffle jusqu'à 90 km/h. Les températures, elles remontent un peu avec 8 à 13 degrés demain matin, 23 à 29 degrés sur la moitié est du pays, 25 à Marseille, 26 à Metz, 29 à Strasbourg et 15 à 23 degrés ailleurs. C'est frais, notamment à Clermont-Ferrand avec seulement 15 petits degrés.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec votre invité dans un instant, Nathalie Lévy.
Ça avait tout l'air d'une opération rabibochage. Les syndicats de police reçus cet après-midi et encore demain place Beauvau. Il était dans le bureau du ministre de l'Intérieur il y a quelques minutes. Il est à mes côtés en studio. Yves Lefebvre, secrétaire général du syndicat SGP Police Force Ouvrière. C'est sur Europe 1 dans moins de 2 minutes.
Europe 1.
18h20 sur Europe 1, votre grand journal du soir se poursuit. Nathalie Lévy, et vous recevez ce soir le secrétaire général du syndicat Unité SGP Police FO, Yves Lefebvre.
Bonsoir Yves Lefebvre.
Bonsoir.
Bienvenue à mon micro sur Europe 1. Yves Lefebvre, vous avez évidemment été reçu par Christophe Castaner, vous l'avez entendu, vous avez été sans doute écouté. Comment se ressortez-vous de cette rencontre?
Je dirais que je reste avec beaucoup d'interrogations. J'espère. Moi, je n'ai pas entendu ni écouté Christophe Castaner, parce que j'étais là pour lui expliquer que les policiers sont en train de... ne considère plus Christophe Castaner comme étant légitimement leur ministre aujourd'hui. Christophe Castaner a lâché sa police lundi à travers son point presse, en annonçant déjà le soupçon avéré, hein, déjà ça sur, en matière de propos d'actes racistes. Pour moi, le soupçon avéré n'existe pas. Il y a des faits avérés, oui ou non, et s'ils sont avérés, effectivement, enquête judiciaire, enquête administrative, et bien évidemment suspension. Alors, ça, il n'y a pas de débat là-dessus.
Alors commençons par le commencement, sur le fameux soupçon avéré. Est-ce que c'est un casus belli? Est-ce que vous pensez que Christophe Castaner, là, va reculer sur ce point?
Oui, bien sûr, il a déjà commencé à reculer. Il a produit une note que je devrais d'ailleurs avoir dans la soirée. Une note, une circulaire, une instruction au directeur général de la police nationale et au directeur général de la gendarmerie nationale, leur signifiant qu'effectivement que les faits doivent être caractérisés. Dès lors qu'ils sont caractérisés, on ouvre les enquêtes, tant administratives que judiciaires, et là, la suspension s'impose. Mmh. Mais elle s'impose bien évidemment à partir du moment qu'on n'est pas sur de la suspicion, sur du saupoudrage.
Qu'est-ce qu'il vous dit à ce moment-là, quand de toute évidence il recule? Quelle est la tonalité des échanges? Quelle est la forme des échanges que vous avez avec lui? Et combien de temps cela dure?
Cet après-midi, ça a duré 1h15. Je dirais que c'est pas le Christophe Castaner qu'on connaît habituellement, hein. C'est le Christophe Castaner qui était... tel un boxeur dans un coin du ring, assis sur sa chaise, et qui en a pris, passez-moi l'expression, plein la tronche pendant 1h15. Plein la tronche parce qu'il est indigne dans ses propos de lundi, et depuis lors, il est indigne d'être le ministre de l'Intérieur. Maintenant, il est au pied de l'Himalaya, il n'a pas de bouteille d'oxygène, c'est à lui de monter l'Himalaya avec ses petits bras, ses petites jambes, et de réussir à reconquérir la confiance des policiers. Sur la suspicion, le soupçon avéré. Là, il reconnaît une erreur manifeste, une erreur de préparation de communication.
Alors, c'est certainement un des points qui a mis le feu aux poudres chez vous, dans votre famille. L'autre point, c'est évidemment cette technique d'intervention et d'interpellation qui est appelée la clé d'étranglement. Hein. Est-ce que là-dessus, vous voulez qu'il revienne, qu'il fasse marche arrière, purement et simplement?
Bien évidemment. Le contrôle de tête. Telle est la dénomination exacte de cette technique d'interpellation qui est enseignée depuis des décennies dans la police nationale. Le contrôle de tête, j'ai demandé à Christophe Castaner cet après-midi de m'apporter la preuve du risque ou des blessures, et qui plus est, des décès ayant été provoqués par le contrôle de tête. Il est incapable de m'apporter un commencement de chiffres. Pourquoi ? Parce que sur l'affaire de Cédric Chouviat, je comprends la peine, bien évidemment. Qui ne pourrait pas s'associer à la peine de la famille, des amis ? Mais aujourd'hui, il y a une instruction en cours. Rien ne détermine aujourd'hui. Et sur l'affaire d'Adama Traoré, on n'est absolument pas sur, communément appelé, une clé d'étranglement, mais un contrôle de tête. Et là-dessus, Christophe Castaner, manifestement, tendrait, j'espère, il doit me donner sa réponse ce soir, tendrait à revenir,
à faire un
grand pas en arrière, un écart incommensurable en arrière, en lui disant, ben, on maintient le contrôle de tête, c'est ce que je lui demande, moi, on maintient le contrôle de tête jusqu'à ce qu'on trouve, avec des techniciens, une autre capacité à intervenir.
Pourtant, il en a été question du taser. Le taser, ça ne représente pas une alternative,
non,
donc
le taser est bien plus dangereux que le contrôle de tête. Le taser, entre 2018-2019-2020, du moins une partie du premier semestre 2020, quasi premier semestre 2020, on a à peu près 5000 interventions avec le taser, enfin du moins 5000 faits avérés avec le taser, et on a potentiellement un mort avec le taser. Donc le taser est plus dangereux, et il n'est pas question. Hein. Christophe Castaner a été très clair, moi je ne veux pas la généralisation du taser, et Christophe Castaner m'a confirmé qu'il n'y aurait pas de généralisation de dotation du taser.
Yves Lefebvre, est-ce qu'il y a aujourd'hui des points qui ne sont pas négociables, outre ces deux aspects, la technique de la clé d'étranglement et le soupçon avéré? Qu'est-ce qui peut faire que le dialogue reprenne avec votre ministre de l'Intérieur? Parce qu'on voit bien des actions qui ont commencé ce soir, aujourd'hui un peu partout en France, avec des menottes déposées devant les commissariats.
Je vous l'ai dit, moi très simplement, le maintien, la technique aujourd'hui de contrôle sur le contrôle de tête. On peut expérimenter le nouveau pistolet à impulsion électrique sur 3 départements et pendant 3 mois, et on voit le résultat. Après, on voit ce que ça donne.
D'accord.
Et bien évidemment, le maintien de la, je dirais, de la présomption d'innocence pour tous les policiers.
Donc, s'il y a un retrait sur ces deux aspects-là, on peut imaginer que la police réengage le dialogue avec son ministre de l'Intérieur.
Bien sûr.
Parce qu'on a vu quand même ces courriers. Ne doutez pas de la police, de vous, ne doutez pas de la République, ne doutez pas de vos patrons policiers. Ça, c'est le préfet de police de Paris,
oui.
Didier Lallement.
Très beau courrier.
Très beau courrier. Les mots de soutien également de Frédéric Vaux, le directeur général de la police nationale.
Un peu indélicat, si je peux me permettre.
C'est-à-dire ?
Bah, quand il parle qu'on a accueilli nos collègues issus de l'immigration, on n'a pas nos collègues qui rentrent dans la police nationale. Ils peuvent avoir des parents, des grands-parents issus de l'immigration. Mais eux sont français. On ne les accueille pas. Ils ont toute leur place dans la police nationale. Donc les mots, et particulièrement, je dirais, ce courrier a été mal préparé et fait un peu à l'emporte-pièce.
Le courrier de Frédéric Vaux, donc.
Oui, tout
mais
à
celui
fait.
Mais celui de Didier Lallement, c'est quoi ? C'est une marque de défiance vis-à-vis du ministre de l'Intérieur, parce qu'on est quand même dans... Voilà, lui, il prend la plume, d'une certaine manière, pour vous redire combien vous êtes précieux.
Bien sûr. Didier Lallement s'est comporté comme un grand chef. Alors, j'ai pas toujours été d'accord, je ne serais sans doute pas toujours d'accord avec Didier Lallement. Mais Didier Lallement s'est comporté comme le patron, le chef des policiers parisiens. Frédéric Vaux a voulu, je dirais, rattraper un peu, passer mon expression, une expression un peu sportive, sucer la roue de Didier Lallement là-dessus, mais il l'a fait de façon très très maladroite, qui provoque beaucoup de colère pour nos collègues d'origine maghrébine, d'origine afro-africaine.
Donc c'est pas fini.
Voilà.
Alors attendez, Yves Lefebvre, que je comprenne bien. On a la parole d'Emmanuel Macron dimanche à la télévision devant les Français. Est-ce que vous attendez une parole forte d'Emmanuel Macron dimanche soir ?
Oui, une parole forte d'Emmanuel Macron au-delà des mots. J'attends moi des réponses concrètes, à savoir, je l'ai dit,
nos trois points,
à savoir bien évidemment la présomption d'innocence, bien évidemment le maintien des techniques telles qu'elles sont opérantes aujourd'hui, jusqu'à ce qu'on nous découvre l'alpha-oméga qui pourrait le remplacer. Et à côté de ça, l'expérimentation du taser, mais sans aller sur une dotation généralisée.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites, vous Yves Lefebvre, Christophe Castaner, parce que vos collègues le disent, n'est plus légitime, il est au pied de l'Himalaya, hein, c'est votre expression,
c'est ça,
doit-il démissionner?
Non, j'ai jamais demandé la démission, et ça ne relève pas de mon autorité, ni de mes compétences de demander la démission d'un ministre. Je dis simplement, Castaner, aujourd'hui, et ce depuis lundi, n'a plus la confiance de ses policiers. C'est à lui d'en tirer toutes les conclusions. Maintenant, il a peut-être une chance, d'ici ce soir, d'ici demain matin, de nous prouver qu'il a... Il fait, je dirais, son mea culpa. Il reconnaît, j'ai fait des bêtises, j'ai dit n'importe quoi. J'ai fait une immense connerie, voilà, appelant un chat. Et
mais est-ce qu'un ministre qui fait marche arrière de la sorte, c'est encore un ministre légitime ?
C'est pas à moi de juger. Moi, ce que j'attends, c'est que mes collègues puissent arrêter les voyous, les délinquants sur le terrain.
Une dernière question. Action, là, en ce moment, avec les menottes déposées. Action coup de poing aussi, peut-être, bien sûr, demain.
Bien sûr, mais moi, j'ai lancé un appel illimité. J'appelle tous les syndicats. J'ai appelé à une intersyndicale depuis ce matin. J'attends demain, j'ai appelé mes collègues, parce qu'il y a des opérations coup de poing initiées, semble-t-il, par Alliance CFE-CGC. Moi, j'appelle tous les policiers. Vous savez, la colère policière n'a pas de couleur syndicale. Comme les policiers n'ont pas de couleur. La seule couleur, c'est le bleu marine et la défense de notre métier.
Samedi, nouvelle manifestation. À la veille de la prise de parole d'Emmanuel Macron, avec les tensions qu'on a vues déjà, et c'est forte de 20 000 personnes, hein, la première manifestation. Comment vous l'abordez ?
On l'aborde toujours avec beaucoup de craintes, hein, beaucoup de craintes, parce qu'on a connu celle devant le TGI de Paris, hein, où c'est effectivement, ça a été assez compliqué à gérer, même si la graduation de l'opération du maintien de l'ordre a été parfaitement gérée ce soir-là. Moi, ce que je crains, c'est qu'à nouveau, au travers de manifestations non autorisées, donc par définition interdites, avec quand même des gens qui représentent une minorité, on en arrive encore à remettre une couche à l'encontre des forces de l'ordre et encore à plus stigmatiser. Et ça, je ne l'accepterai pas, quitte à rentrer dans un rapport de force. Ça, je sais faire du syndicalisme, un rapport de force. Je suis un syndicaliste, pas un politique. Donc le rapport de force, il peut me faire confiance, Christophe Castaner. Édouard Philippe également, et Emmanuel Macron également, moi je ne lâcherai rien là-dessus.
Le message est passé. Merci beaucoup Yves Lefèvre d'être venu répondre à mes questions sur Europe 1, secrétaire général du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière. Merci à vous.
Europe 1. À suivre Nathalie Lévy.
Les grandes voix qui s'installent dans ce studio dans une seconde, Catherine Ney, Michel Cotta face à face ce soir et au programme, la colère des policiers, la majorité, Emmanuel Macron, les statuts que l'on veut déboulonner dans le monde, en France aussi.
Europe 1.
18h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir. Nathalie Lévy. Avec votre rappel des titres, Sébastien Krebs.
La confiance est rompue entre le ministre de l'Intérieur et les policiers, estiment les syndicats reçus cet après-midi place Beauvau. Le discours sur le racisme ne passe toujours pas. Les agents sont appelés à déposer leurs menottes symboliquement devant les commissariats. Nous serons dans le Nord dans le journal de 19h. Autre ministre dans la tourmente, Gérald Darmanin, rattrapé par des accusations de viol. La cour d'appel de Paris demande la reprise des investigations sur cette affaire qui avait été classée sans suite. La Commission européenne veut accélérer sur l'ouverture des frontières. Elle demande à ce que la libre circulation à l'intérieur de l'Union soit rétablie dès le 15 juin, c'est-à-dire la semaine prochaine. Quant aux frontières extérieures, les Européens sont appelés à se coordonner et à ouvrir progressivement le 1er juillet aux pays tiers en fonction de critères communs. L'application Stop Covid est-elle déjà un flop ? À peine 2% de la population l'a téléchargée. Elle n'a donné lieu qu'à une poignée de notifications. On y revient dans le journal de 19h. Le conseil scientifique se réunit demain à l'Élysée sur la poursuite du déconfinement. Les sénateurs veulent limiter l'accès à la pornographie sur Internet. Un amendement a été voté avec le soutien du gouvernement pour imposer une vérification d'âge sur chaque site. Mais les modalités s'annoncent compliquées. Les détails à suivre dans le journal. Enfin, la Liga de foot, le championnat espagnol, reprend ce soir avec un derby à Séville. Le Barça et ses stars retrouveront le terrain samedi. Il y a 110 matchs à rattraper en 6 semaines.
Merci Sébastien, retour de l'info 19h avec vous en direct. Anissa, des vigilances parce que la pluie là s'installe.
Oui, elle s'installe, elle est parfois même violente, on l'a vu aujourd'hui en Corse. Il faut savoir que sur Bastia et Ajaccio, il est tombé en quelques heures l'équivalence d'un mois de pluie. Donc effectivement les rues sont inondées, il y a de nombreux dégâts et la pluie elle continue de tomber avec d'ailleurs sur les Côtes d'Armor, le Finistère, le Morbihan, la Haute-Loire, le Cantal, la Lozère, le Gard et l'Aveyron. Sur ces départements, une vigilance orange pluie, inondations et orages violents. Alors demain, ça se calme en Corse. Ça, c'est la bonne nouvelle du jour avec le soleil qui est de retour. Et la pluie va concerner une bande assez centrale du pays qui va des Hauts-de-France jusqu'aux Cévennes en passant par la région parisienne, le centre, le massif central et le Languedoc. Partout ailleurs, c'est un ciel partagé entre nuages et éclaircies et au cœur de cette bande des orages assez violents. Les températures, elles remontent un petit peu demain avec 23-29 degrés.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec, comme chaque soir jusqu'à 19h, les débats des grandes voix. Ce soir, Nathalie Lévy, vous êtes entourée de Catherine Ney et Michel Cotta.
Bonsoir mesdames.
Bonsoir.
Bonsoir Nathalie.
C'est un trio féminin ce soir, un quatuor féminin bien sûr. Eh bien écoutez, on est ensemble jusqu'à 19h pour aborder deux thèmes importants. Bah, ce remaniement dont on va parler évidemment entre rumeurs, coups bas, intox, imminence ou pas, vous allez nous dire ce que vous en pensez. Et puis dans un instant, faut-il faire de table rase du passé dans ce contexte de tension arrivée autour du racisme? On en a commencé à aborder le sujet hier et on a vu des statues déboulonner désormais. Alors, s'agissant de ce remaniement et de tout ce qui va avec, bien entendu, parce qu'il y a des choses qui se murmurent, Catherine Ney, des choses qui se murmurent, de l'air de complot aussi, là, à l'heure qu'il est.
Ben oui, c'est la majorité va mal. Elle est un petit peu en comme
en
ça,
chaos.
En, pas, je dirais pas, pas en chaos, mais vous avez vu qu'il y a eu un groupe qui s'est créé, puis un second, puis un intergroupe à l'intérieur. Bon,
alors en chahut peut-être.
Il y a un chahut et quelque part aussi l'idée que cette majorité n'était pas tenue, qu'il n'y a pas de leader de ce groupe parlementaire qui impose une discipline. Alors, évidemment, beaucoup de députés mettent en cause le Gilles Legendre, qui est un homme qui a un travail très difficile à faire, parce que faire cohabiter en même temps des gens qui sont à droite et d'autres à gauche, et qui, plus l'animosité personnelle de Gilles Legendre envers le Premier ministre, ça crée quand même des tensions et des problèmes que... Jusqu'ici, aucune voix, en tous les cas pas le président de la République, n'a su y mettre de l'ordre. Et puis, on voit aussi que des ministres parlent un peu à tort et à travers, se poussent. Quand même, entendre Mme Schiappa dire qu'elle ne croit pas du tout à la candidature de Mme Buzyn à Paris, vous voyez, alors qu'elle est sur une liste, là, vraiment, ça fait désordre. On a l'impression un petit peu, alors que le déconfinement a un peu déconfiné les esprits, qu'il y a une espèce de nervosité. Alors oui, il doit y avoir... un remaniement, oui, on le dit, mais c'est la presse qui le dit, c'est un désir de certains députés qui voudraient bien être ministres, c'est peut-être un désir de certains ministres qui voudraient changer de choses, mais pour l'instant, un seul à la réponse, c'est le président,
de la République.
C'est dire qu'on a... Voilà.
C'est toujours la même question, donc c'est difficile. Il ne faut pas essayer de broder autour
c'est
de
c'est
ça.
C'est pour ça qu'on ne va pas sortir des noms du chapeau comme l'a fait Yves Legendre, par exemple.
Non, non, c'est complètement inutile. Mais c'est vrai que moi, je suis assez sensible au contexte que tu décris, Catherine, c'est-à-dire une majorité avec des groupes différents qui menacent pas, grosso modo, Emmanuel Macron lui-même, parce que ce sont des groupes qui plus ou moins votent pour lui ou voteront pour lui.
Mais c'est pas les frondeurs de François Hollande.
Non, c'est pas du tout les frondeurs de François Hollande.
Non, non.
Mais tout de même, ça donne une impression.
De fébrilité, tout au moins.
Des pas de côté de certains ministres. Vous avez reçu quelqu'un, un syndical de la police tout à l'heure. Bon, c'est vrai que ce que dit le secrétaire d'État Nunez n'est pas la même chose que ce qu'a dit Castanière. C'est vrai que ce qu'a dit le préfet Didier Allemand, et à qui c'est drôle, les syndicalistes policiers rendent hommage.
Bien sûr.
C'est bien. Donc,
qui court-circuite vraiment le ministre de l'Intérieur.
Il n'y a pas seulement, je trouve, chacun se pousse un peu du col, parce qu'on sait très bien qu'en période de remaniement, chacun avance un peu ses pions, et puis même s'il fait quelque chose, même sans le vouloir, on dit qu'il avance ses pions. Mais c'est vrai que l'atmosphère doit être difficile, surtout d'ailleurs après la note de Gilles Legendre, entre le Premier ministre, entre...
Qui lui se porte très bien dans les sondages, on sait très bien que les sondages ne font
Bruno
pas.
Entre Bruno Le Maire, entre Gérard Darmanin, avec Jean-Yves Le Drian, tout ça n'est pas commode à régler. Alors, reste la question des relations avec le président, entre le président et le Premier ministre. Alors, là... je sais que Catherine et moi, sommes très circonspects.
Alors justement, vous me gardez ça pour dans quelques secondes ? Parce que il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Édouard Philippe, évidemment, sait aussi remettre les choses à leur place quand il entend trop de rumeurs. On en parle donc juste après avec vous deux, Catherine et Michel Cotta.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe avec Nathalie Lévy et les grandes voix Catherine et Michel Cotta.
Et oui, on vous parle d'un gouvernement sous tension, la veille d'un possible, probable remaniement, avec quand même 65% des Français qui souhaitent aujourd'hui que Édouard Philippe reste à Matignon. Il est très populaire, Édouard Philippe, Michel Cotta, Catherine Ney. Et évidemment, il y a plus que de la brouille sur la ligne entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe aujourd'hui.
Non, c'est peut-être trop dire, mais c'est vrai que c'est un couple impossible toujours, même si aucun n'a failli à la règle. On n'a jamais entendu Édouard Philippe raconter quelque chose de ce que lui disait. Bon, tout ça a très bien marché. Et puis, il y a quand même, on voit quand même des désaccords. Et manifestement, l'accord sur le déconfinement, par exemple, en état. L'un va aller plus vite que l'autre. De là à ce que le président de la République dise à Philippe...
Il lui renvoie d'ailleurs sa responsabilité pénale.
Et dise à Philippe de Villiers, oui, rappelle à Philippe de Villiers, dont on sait qu'il dit tout, à sa responsabilité pénale.
Le président ne devrait pas dire ça.
Voilà. Exactement. Voilà. Oui.
Alors, et de l'autre côté, on sait quand même maintenant que Emmanuel Macron reproche l'âge limite, l'âge pivot, comme vous savez, reproche peut-être les 80 km à l'heure, reproche peut-être la taxe au carbone. Ouais. Enfin, tout ça a bien roulé jusqu'à maintenant. Et on a là, quand même l'impression qu'on est dans une phase où il faut quand même dire s'il reste Premier ministre ou pas. Ouais, parce sûr. Que c'est insupportable pour tout le monde.
Bien sûr, Catherine.
Ce qui est insupportable pour un président, c'est que son Premier ministre soit plus populaire que lui.
C'est ça.
Ils l'ont jamais supporté. Quand il a été à 2 ou 3 points de différence, c'était à peu près pareil. Ouais. Mais ça a été vrai pour tous les présidents. Ouais. Quand Chaban avait 10 points de mieux que Pompidou, c'était insupportable. Quand Pompidou était mieux en 68, plus populaire que le général de Gaulle s'est séparé de lui. Donc, et pour un jeune président qui arrive et qui est toujours dans la séduction et qui pense, et c'est vrai qu'il est un inventif qui espérait changer la France et puis qui voit que ça marche mal... et qui se réinvente chaque jour un rôle depuis quelques mois. Tantôt c'est un chef de guerre, tantôt c'est... Enfin, quelquefois, il n'a pas grand-chose à dire, mais il parle quand même. Alors que Édouard Philippe, pendant cette crise du Covid, c'était lui qui était au charbon, mais c'est vrai qu'il faisait le tempo, qui parlait, qui s'exprimait, et qui est apparu dans le couple comme le tuteur face au président qui était un peu dans les nuages et qui n'était pas encore... Bon, voilà, et qui était un langage un peu éthéré. Et à chaque fois, on se dit, tiens, il a eu raison de le faire, c'est que de le dire. Regardez, là, on parle beaucoup de la crise entre Castaner et les policiers. Mais Castaner qui dit que, par exemple, que l'émotion dépasse les règles juridiques pour autoriser les manifs, eh bien, comme par hasard, c'est le Premier ministre qui a dit, si nous acceptons cette facilité de l'esprit sous le coup de l'émotion... Ouais. Alors c'est un basculement de la République qui intervient, et le basculement de la République, quand je vois cela, je me dis qu'il n'est pas si loin. Ouais. Donc c'est toujours lui qui rappelle à l'ordre les ministres quand quelque chose déraille, vous voyez. Et donc les députés et les Français qui l'écoutent disent « heureusement qu'il est là ». Pendant le débat sur les retraites, quand il disait « mais combien ça coûte l'équilibre budgétaire ?» alors qu'on ne voulait pas en parler, on se disait, les Français disaient « mais il a raison ». Donc vous voyez, c'est à la fois...
Oui, il a raison. Ça dépend pour qui, parce que c'est vrai que cet âge.
Mais pour les Français, il a raison. Pour une majorité de Français, par rapport au Premier ministre, sur l'âge pivot, il a raison. Alors,
sur l'âge pivot, je ne suis pas sûre. Sur les retraites, je ne suis pas sûre.
On a vu les Français descendre dans la rue.
Contribuer, effectivement, à compliquer le cas avec Emmanuel Macron. Ça c'est sûr. C'est-à-dire que maintenant, au fond, le président est un carrefour où il continue comme ça, et alors on sait que beaucoup de gens disent dans sa propre majorité, ah, ce sera comme Sarkozy avec Fillon, et il ne peut pas s'en débarrasser, ce qui n'est jamais bon non plus, où il se sépare d'un Premier ministre plutôt sympathique et même très sympathique aux Français, et ça... C'est toujours un risque. Parce qu'on a cité Chaban-Delmas, mais on peut citer Michel Rocard.
D'autant que c'est peut-être son plus dangereux rival pour 2022. On ne va pas faire de la peur. Mais aujourd'hui, si on regarde le schéma du jour, simplement.
On ne va pas faire de la prospective comme ça. Je ne pense pas quand ça se trouve déjà en rivalité.
Aussi dans les esprits.
En rivalité. Mais sur la police, le problème qui se pose quand même devant eux, le chemin de crête est difficile. Parce que c'est vrai que le ministre de l'Intérieur ne nuance pas toujours assez ses propos. Mais c'est vrai aussi qu'il y a une manifestation, que les jeunes, dont on a très peur après le confinement, seront samedi sur le terrain.
C'est ça.
Et c'est vrai qu'il faut passer entre la revendication pour laquelle, encore une fois, même Jacques Toubon, qui vient quand même,
défenseur
qui vient pas de la
droits.
Gauche, dit qu'il faut être gentil.
Mais qui pourrait en venir.
La ligne de crête est très difficile entre qu'apporter à ces jeunes qui disent oui, il y a trop de boulot, et qu'apporter en même temps aux policiers pour leur dire vous avez quand même rudement bien tenu le
d'autant
coup
face aux gilets Philippe, jaunes. Hein, qui...
Donc maintenant,
bien sûr, d'autant que c'est Édouard Philippe qui est de nouveau allé sur le terrain à Évry le lendemain, donc envoyé sans doute par le président de la République. Il y a assez peu de doutes sur la question, Catherine. Et s'il est sur place le lendemain à Évry pour essayer de recoller les morceaux...
Tout le monde a senti qu'il fallait recoller les morceaux.
Je ne sais pas. Le Premier ministre ne fait rien sans avertir l'Élysée. Est-ce qu'il dit avant de parler au président ce qu'il va dire? Il va sur le terrain pour essayer de rassurer les policiers.
Il n'a pas été le seul, donc le préfet de police aussi. Le préfet de police ne fait rien sans l'accord du président.
L'accord du président de la République, et il y est allé franchement dans le soutien aux policiers. On se retrouve dans un instant, mesdames. On va aussi revenir sur ce passé avec les tensions ravivées ces derniers jours autour du racisme, des statues déboulonnées par des manifestants en Grande-Bretagne, aux États-Unis, et avec des questions aussi sur la ville de Bordeaux.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voix Catherine Ney, Michel Cotard.
Des statues qui dérangent, celles au Palais Bourbon de Colbert, de Léopold II en Belgique, de Christophe Colomb aux États-Unis, attaquaient d'ailleurs ces statues à Boston, à Miami, en Virginie. Mesdames, faut-il déboulonner les statues du passé? Aujourd'hui, la question se pose. Michel Cotard.
C'est une façon quand même de refaire l'histoire qui n'est pas supportable, je trouve. Dieu sait que beaucoup de gens se sont engagés dans la lutte anticoloniale et des Français se sont engagés dans la lutte coloniale depuis des temps. Depuis des années. Dieu sait que, personnellement, moi je suis sensible à la cause coloniale. Mais ce n'est pas quand on déboulonne la statue de Christophe Colomb sous le prétexte qu'il a envoyé des microbes en Amérique. Ce n'est pas quand on dit à Colbert, qui est quand même... Colbert est vital dans l'histoire française. C'est lui, la centralisation, c'est lui. Et en plus, on le condamne pour avoir parlé de l'esclavage, mais c'était plutôt... Il faisait plutôt une loi pour encadrer l'esclavage. Donc bon, enfin, peu importe.
L'homme de Louis XIV, on peut aussi
déboulonner Jules César.
On
peut déboulonner Jules César. Bon, ceci étant, c'est inacceptable. D'abord, parce que c'est sous la loi de la rue. On ne peut pas accepter, on est en démocratie, on ne peut pas accepter que ce soit la rue qui change le nom des rues, justement, surtout quand elle se trompe. Et puis, on ne peut pas accepter de ne pas assumer notre histoire, d'une certaine façon. Il faut l'assumer avec les bons côtés, avec les mauvais côtés, ou en expliquant, peut-être.
Alors, l'hygiénisme historique, on y revient. Catherine, je vous donne la parole. Écoutons sur ce point, justement, Bruno Retailleau. Il était ce matin l'invité d'Europe 1, président du groupe Les Républicains, sur Europe 1.
Quand on commence à s'attaquer à la culture, c'est-à-dire à la civilisation et au statut, c'est généralement très très mauvais signe. Voilà. Et il faut refuser cette racialisation des rapports sociaux. On ne peut pas accepter cette société parce que derrière tout cela, c'est une société conflictuelle où on veut nous imposer, où on veut assigner, où on veut remettre au goût du jour ces affiliations raciales.
Catherine Ney, on est en face d'un danger si, effectivement, on renonce à notre passé.
D'abord, vous savez, relire l'histoire avec les lunettes du présent, les mentalités du présent, ça a un nom, ça s'appelle la téléologie. Bon, c'est toujours dangereux parce que, je veux dire, c'est une autre version de l'histoire et c'est même renier l'histoire qui est une matière vraiment... inflammable. Alors c'est vrai que on a souvent débaptisé des rues pendant la période de Vichy, il y a des Gambetta, ça a été brûlé. Bon, mais sur Colbert, ça a commencé lorsque les lois Taubira ont reconnu l'esclavage comme crime contre l'humanité. Ça a contribué à faire ressurgir ce débat et on a commencé à dire que ça fait plusieurs années. Donc on demande que la statue de Colbert soit... Mais on en arrive
mais qu'est-ce
aussi...
Mais qu'est-ce qu'on répond alors aussi aux associations noires de France qui disent que ces statues incarnent la haine et la violence? Il faut détruire les instruments du passé qui empêchent pour les générations futures d'avoir une compréhension
Elle explique notre histoire avec, encore une fois, ses côtés
sombres.
Côté des guerriers et puis tout le reste. Par exemple, alors à ce moment-là, il faut démolir l'Arc de Triomphe. Vous me direz que les gilets jaunes ont essayé de le faire. Il faut démolir le fronton de l'Assemblée nationale. Il faut démolir un certain nombre de généraux, de statues de généraux. Bon, mais d'ailleurs, encore une fois, une chose, enfin, il me semble qu'une chose est de dire attention. Attention à la haine raciale, attention, nous faisons partie d'un même peuple, etc. Et une autre chose est de reconnaître son histoire et de dire, moi, si on veut une statue à Toussaint l'Ouverture, moi, je suis d'accord.
Qu'est-ce que vous répondez, Catherine Ney, quand certains demandent, par exemple, que ces statues, elles soient mises, par exemple celle de Colbert, mises dans un musée avec bien la plaque expliquant qui était Colbert, ce qu'il a fait, qu'il était à l'origine de l'esclavage, mais le sous-titre qui va bien.
Mais moi, on peut très bien faire ce sous-titre sous sa statue avec une plaque pour expliquer, parce que s'il a été mis là où il est, c'est parce qu'il a beaucoup apporté à la France et qu'il a eu un rôle déterminant dans la création de la France et que c'est une partie de l'histoire. Alors, par exemple, en Belgique, où le roi Léopold, mais il y avait des statues de lui partout, là, certaines vont être mises au musée, comme à Anvers, par exemple. Pourquoi pas ? Mais là, Colbert, vous voyez, vous parliez de l'Arc de Triomphe. Lorsque l'Arc de Triomphe a été démoli, il y a eu des tags où était écrit « Vérité pour Adama Traoré »,« Vérité pour Odama ». Quand la statue du maréchal Juin a été cassée, il n'y a pas longtemps, dans une manifestation des Gilets jaunes, place d'Italie, il y avait marqué « Justice pour Adama ». Donc, vous voyez, c'est quand même très connoté par ce débat dont on a beaucoup parlé aujourd'hui. Mais on arrive aussi à des aberrations, c'est qu'il y a quelques jours, en Martinique, deux statues de Victor Schœlcher ont été vandalisées, renversées par
terre.
C'est
l'homme qui a décrété l'abolition de l'esclavage.
Alors que vraiment, c'est lui
qui a décrété l'abolition de l'esclavage.
Et on se souvient qu'en 1981, Mitterrand avait au Panthéon été porté une rose sur son tombeau. Eh bien, pourquoi ? Parce que les militants disent, mais c'est pas. Oui, c'est lui qui est glorifié, alors que s'il y a eu. Évidemment, s'il en est arrivé là, c'est parce que nous, on s'est battu pour obtenir.
Donc, alors c'est sans fin. Il n'y a pas moyen de s'en sortir. Le comble, c'est le film Autant n'emporte le vent. Le comble, c'est ça. C'est un film, qui a été marqué par la guerre de sécession. Mais la guerre de sécession, elle a existé. C'est pas nous qui l'avons faite.
Le patrimoine.
Faut savoir raison garder.
En tout cas, le patrimoine suscite la polémique. On n'a certainement pas fini d'en parler. Et vous reviendrez évidemment en débattre, mesdames. Merci beaucoup. Catherine Ney, Michel Cotta, merci à vous les grands.
Au revoir. Europe 1.
À suivre, Nathalie Lévy. Et vous le savez, après 19h, on regarde vers demain, mais d'abord c'est le 19h de Sébastien Krebs, son journal.
Europe 1.
Jusqu'à 20h, vous écoutez votre grand journal du soir sur Europe avec Nathalie Lévy et la suite du programme, Nathalie.
Et la suite, vous la connaissez, le soir, à partir de 19h, on regarde vers demain. À 19h20, la mise en place demain de la plateforme Vacances Apprenantes pour 1 million d'élèves. Je recevrai pour en parler dans 20 minutes Gabriel Attal, c'est le secrétaire d'État à l'éducation et à la jeunesse. À 19h30, cette question, va-t-on devoir travailler plus pour sauver nos entreprises, organisation du travail, salaire, vacances? On en débat ce soir sur Europe 1 avec vous. Et vos questions, c'est au 3921, hashtag Europe 1.
Votre grand journal du soir, c'est avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy. Vous écoutez Europe 1, il est 19h.
Quand on voit qu'on est littéralement lâché en pâture, en plus par notre ministre de tutelle, donc à un moment donné, oui, il y a plus qu'un ras-le-bol.
Les menottes déposées symboliquement à terre, les policiers en colère, confiance rompue avec leur ministre Christophe Castaner qui ne parvient pas à désamorcer la grogne provoquée par ses déclarations.
On se projette sur demain, le déconfinement qui se joue à l'Élysée. Quelle piste, quel dossier sur la table du Conseil scientifique? On verra ce qui peut accélérer.
En revanche, l'application mobile Stop Covid tourne au fiasco, bien trop peu d'utilisateurs.
Dans ce journal aussi, la proposition des sénateurs pour limiter l'accès au porno sur Internet.
Demain dans Le Monde, comment rouvrir les frontières extérieures de l'Europe? Didier François nous dira que c'est aussi une affaire diplomatique. Enfin, les Français veulent passer l'été au bord de la piscine, mais leur propre piscine, ruée sur les constructeurs de bassins.
Anissa, le ciel. Avec cette goutte froide, c'est le nom de cette dépression qui passe au-dessus de la France actuellement et qui provoque ce temps très agité. Alors ça va durer jusqu'à ce week-end avec demain encore pas mal de pluie, des orages violents. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1.
Écoutez le monde changer.
Avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs.
Christophe Castaner est indigne d'être ministre de l'Intérieur. Voilà le ton et les mots d'Yves Lefebvre du syndicat Unité SGP Police. Il était dans ce studio tout à l'heure. Après son rendez-vous place Beauvau, le ministre n'a pas éteint la grogne qui monte depuis ses déclarations sur le racisme et la tolérance zéro. Les policiers sont appelés ce soir à déposer leurs menottes symboliquement devant les commissariats. Action menée il y a quelques minutes sous vos yeux, Lionel Gougelot à Roubaix.
Ouais, effectivement. En fait, c'était, Sébastien, le deuxième rassemblement de la journée ici au commissariat de Roubaix. Gardien de la paix, agent de la BAC, policier gradé, aligné sur le boulevard. On devine l'exaspération, en fait, hein, et les visages graves derrière les masques de protection contre le coronavirus. Des policiers qui, en un seul geste, jettent leurs menottes sur le bitume. Vous l'entendez, hein, le bruit métallique de ces menottes, un geste symbolique, mais un geste de défiance très clair à l'égard de Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, Fabrice Danel, délégué SGP Unité Police.
On jette les menottes pour montrer aussi forcément que là, en ce moment, le travail, on ne peut plus le faire. Le malaise était quand même là déjà depuis des années, hein. On n'arrête pas de le dire, hein, que dans la police, il y a un malaise. Mais là, forcément, maintenant, quand on voit qu'on est littéralement lâché en pâture, en plus par notre ministre de tutelle, donc à un moment donné, oui, il y a plus qu'un ras-de-bol, oui, tout à fait.
Et ce qui révolte encore plus ces policiers, c'est ce soupçon de racisme généralisé dans la police qui leur semble avoir été distillé finalement par les propos de leur propre ministre, alors même qu'on leur retire les moyens d'interpellation comme la technique dite de l'étranglement. Benoît Aristidou du commissariat de Roubaix.
Et aujourd'hui, en disant qu'on est bientôt raciste dans la police et qu'on ne sait pas maîtriser des individus sans les fracasser, c'est une honte. Et à côté de ça, on s'en fout de ce qui peut se passer dans la police. On s'en fout que le flic puisse rester à terre. Et il y a un suicide, et alors ? On en est presque là. C'est ça qui est dommage aujourd'hui.
Après quelques minutes sur le boulevard, les policiers ont entamé la Marseillaise, promettant de nouvelles actions devant ce commissariat de Roubaix, par exemple, si le gouvernement maintient ses positions.
Lionel Gougelot, en direct de Roubaix pour Europe 1.
Les syndicats qui estiment que la confiance est rompue entre le ministre de l'Intérieur et les policiers et qui racontent que Christophe Castaner a concédé une erreur.
Oui, tout à l'heure, lors du rendez-vous, il a concédé une erreur en évoquant l'autre jour des suspensions systématiques au moindre soupçon avéré de racisme. Ces rencontres avec les syndicats vont se poursuivre demain. De nouvelles manifestations contre le racisme et les violences policières sont prévues dans les prochains jours. Pourront-elles être autorisées ? Le Conseil d'État, saisi par plusieurs associations, a examiné aujourd'hui des recours demandant le rétablissement de la liberté de manifester.
Autre ministre dans la tourmente, Gérald Darmanin, la Cour d'appel de Paris demande en fait la reprise des investigations sur les accusations de viol dont il a fait l'objet.
Les faits dénoncés remontent à 2009. L'affaire avait pourtant été classée sans suite il y a 2 ans. Demain, c'est la suite du déconfinement qui se joue à l'Élysée, réunion du Conseil scientifique puis du Conseil de défense.
Alors, beaucoup de sujets sur la table avant l'intervention d'Emmanuel Macron à la télé dimanche. Virginie Selmen, bonsoir.
Bonsoir.
On entend beaucoup d'appels à accélérer. Est-ce qu'on sait ce qui peut s'assouplir là, dans les tout prochains jours, qu'en disent les médecins ?
Alors, rien n'est encore tranché alors qu'il est, mais parmi les pistes, il y a la réouverture des salles de restaurants et pas seulement les terrasses en Île-de-France, donc en zone orange, avec des tables encore espacées les unes des autres, bien sûr. C'est un enjeu crucial pour les 22 000 restaurateurs de la région parisienne. L'autre question, c'est quand ? Il n'est pas exclu qu'ils puissent rouvrir avant le 22 juin, nous dit-on au sein de l'exécutif, c'est-à-dire dès la semaine prochaine. Pour les écoles, le ministre de l'Éducation nationale pousse pour qu'un maximum d'enfants puissent retourner en classe d'ici le 4 juillet si la situation sanitaire le permet. Et les infectiologues ne disent pas autre chose. Il faut absolument alléger le protocole sanitaire, nous dit le professeur Karine Lacombe. Les 4 mètres carrés, ça n'est plus d'actualité. Ces règles ont été édictées il y a plus d'un mois. On pourrait donc passer à 3 mètres carrés, 2 mètres carrés par élève, voire moins. Pendant les récréations, les médecins estiment que les élèves doivent même désormais jouer au ballon. Il faudrait garder quelques mesures de protection, par exemple dépister les élèves et les profs qui ont des symptômes, tout en continuant à se laver les mains très fréquemment. Et ça suffit à ce stade de l'épidémie.
Ouais, les précisions de Virginie Salmen du service Société, ça va bouger donc.
Et on va en reparler avec mon invité, le secrétaire d'État à l'éducation et à la jeunesse, Gabriel Attal, dans quelques minutes. Et parmi les outils du déconfinement, il y a l'application mobile Stop Covid, lancée la semaine dernière, mais qui franchement n'est pas un carton, hein. Certains parlent même de fiasco total.
1,5 million de téléchargements, c'est à peine 2% de la population, et une poignée seulement de notifications à ce stade. Emmanuel Duteil.
On avait prévu le fiasco qu'allait être Stop Covid.
Baptiste Robert est chercheur en cybersécurité et pour lui, cet échec de Stop Covid était prévisible.
visible. L'appli est arrivée beaucoup trop tard, du coup personne ne l'utilise et la plupart des gens qui l'ont téléchargée ne s'en servent pas. Ce qui rend l'application très peu utile, son succès dépend en effet du nombre de téléchargements. Le secrétariat d'État au numérique qui a porté cette application le reconnaît à demi-mot. Stop Covid n'a donné lieu qu'à une poignée de notifications, ce qui est bien normal selon Baptiste Robert.
Cette application qui n'est utilisée par personne a forcément très peu d'effet. Vu les critères pour émettre une notification, donc il faut rester 15 minutes à moins d'un mètre d'une personne, c'est le type de situation qui n'arrive à peu près jamais dans votre journée.
Le gouvernement veut croire en l'utilité malgré tout de son appli et n'exclut pas des évolutions. Il veut en tout cas pousser les gens à l'installer pour être prêt en cas d'éventuelle seconde vague, dit-on, à Bercy.
Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1.
Comment éviter que les enfants soient exposés à la pornographie sur Internet où elle est largement, facilement accessible? Les sénateurs ont voté une mesure destinée à limiter l'accès.
Amendement voté avec le soutien du gouvernement. Il s'agit tout simplement d'imposer aux sites porno de contrôler l'âge de chaque visiteur. Ça, c'est sur papier, parce que dans les faits, Mathieu Charrier, ça paraît quand même assez compliqué à mettre en place.
Eh ben oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, pour vous rendre sur un site porno, vous savez, il suffit de cliquer sur « Je certifie avoir 18 ans ». Il n'y a aucun contrôle. C'est pour ça qu'un jeune Français de moins de 12 ans sur deux regarde de la pornographie, d'où l'idée de cet amendement, effectivement soutenu par la majorité, qui obligerait les sites à vérifier l'âge de leurs utilisateurs. Et surtout, s'ils ne le font pas, c'est la nouveauté, le CSA pourrait alors saisir la justice qui déciderait d'empêcher tout simplement l'accès à ces sites depuis la France. Alors ensuite se pose effectivement la question technique, comment faire ? Première option, obliger l'internaute à fournir un numéro de carte bleue. Ça garantit qu'il a au moins 16 ans, mais pas 18, donc c'est imparfait. Deuxième option, utiliser, vous savez, le service France Connect, sorte de pièce d'identité numérique certifiée par l'État. Mais là, ça pose un problème de respect de la vie privée. C'est au site puissant de trouver les outils nécessaires, explique la sénatrice Les Républicains, Marie Mercier, qui porte cet amendement.
C'est ce que tout le monde dit, c'est impossible, donc on ne tente rien. Le CSA, il sait très bien interdire la projection de ses films à la télé, par exemple. Vous n'aurez jamais, à 19h, un film porno à la télévision. Pourquoi on n'arriverait pas à faire en sorte que tous ensemble, avec les sites d'ailleurs, eux, ils ont les moyens de mettre en place ces barrières, travailler pour que les mineurs soient protégés.
Et le Royaume-Uni avait voté en 2017 une loi similaire, mais le gouvernement avait renoncé 2 ans plus tard à la faire appliquer, faute d'avoir trouvé une solution technique et surtout juridique, respectant suffisamment la vie privée.
Les précisions de Mathieu Charrier du service Société d'Europe 1. Des pluies diluviennes et des images spectaculaires qui nous sont parvenues d'Ajaccio en Corse. Aujourd'hui, l'épisode a été très local mais intense. L'eau est montée très vite dans le quartier des Salines. Des voitures ont été emportées. 200 personnes mises à l'abri. Certaines ont dû se confiner dans une crèche et dans un établissement scolaire.
Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1, c'est avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
Les frontières vont s'ouvrir en Europe, la Commission européenne accélère. Ça va débuter la semaine prochaine avec derrière les enjeux diplomatiques. On y vient avec vous Didier François, demain dans le monde.
Et demain en France, encore plus de piscines dans les jardins des Français. Ruées sur les bassins pour profiter de l'été à la maison.
Europe 1.
19h10 sur Europe 1, la suite du journal avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
Et c'est l'heure de notre rendez-vous avec Demain dans le Monde et la Commission européenne qui appelle les différents pays de l'Union à se coordonner sur l'ouverture des frontières.
La Commission demande la réouverture des frontières intérieures le 15 juin, donc la semaine prochaine, et demande aux Européens de décider ensemble de rouvrir aux autres pays du monde à partir du 1er juillet. Bonsoir Didier François.
Bonsoir.
Sauf que se coordonner, c'est pas si simple, on le sait, en Europe, surtout quand la pandémie n'est pas totalement terminée.
Absolument, d'où cette idée d'une rouverture en deux phases. Alors d'abord, évidemment, l'espace Schengen, les voisins les plus proches, parce qu'on a à peu près le même état de maladie, et puis on a les mêmes systèmes de contrôle. Là, il n'y a pas de problème, ça va aller vite. Lundi, on va circuler librement entre l'Allemagne, la France, le Benelux, et même jusqu'en Pologne. Avec quand même quelques exceptions, puisque l'Autriche, par exemple, a décidé de limiter encore quelques semaines l'accès de ton territoire à l'Italie, la Suède, et le Danemark, parce qu'il y avait pas mal de cas de Covid, alors que ces 4 pays sont pourtant tous signataires de l'accord. Donc le vrai problème, effectivement, c'est l'ouverture des frontières extérieures à l'Union, qui est donc prévue pour le 1er juillet, alors que ce pic épidémique n'a pas encore été atteint, par exemple en Inde ou en Amérique latine.
Ouais, on a vu la situation au Brésil notamment. C'est de quoi inquiéter l'Organisation mondiale de la santé, hein, Didier ?
Alors oui, l'OMS ne s'oppose pas à la rouverture des frontières, mais elle a quand même tenu à rappeler les risques de rebond.
I think each and every country.
À ce stade, chaque pays a un niveau différent de risques et d'opportunités différents. C'est donc aux autorités nationales de décider avec prudence leur réponse à la pandémie.
Voilà, donc ce qu'elle conseille aux Européens, c'est d'accompagner cette reprise avec des mesures de contrôle importantes dans les aéroports, par exemple, les ports sans frontières. Mais là aussi, c'est pas si simple, parce qu'il y a des pays qui veulent une levée des restrictions moins lente, moins progressive que ce que souhaiterait Bruxelles. L'Italie a d'ailleurs totalement réouvert ses frontières dès le 3 juin. Chypre, c'était avant-hier. La Grèce le fera la semaine prochaine, parce que le tourisme, eh ben, c'est 15% de son produit intérieur brut, et donc elle estime qu'économiquement, eh ben, elle ne va pas pouvoir se passer plus longtemps des touristes.
Merci Didier François. À demain, ce qui se discute aussi à Bruxelles, c'est le plan de relance européen, 750 milliards d'euros évoqués. La France dit espérer un accord au mois de juillet entre les 27.
Et demain en France, oui, c'est bien la voix de Jean-Pierre Montané qu'on commence à entendre. Bonsoir Jean-Pierre. Le confinement, plus le printemps estival, plus les incertitudes liées aux vacances. Et voilà les Français qui rêvent de quoi cet été, hein? D'une piscine, bien sûr. Ah,
voilà. Ça y est. Oui, à défaut de passer l'été sur les plages de la Côte d'Azur ou de Grèce, de nombreux Français ont planifié des vacances à la maison. Et comme l'été sera chaud, si on écoute Anissa...
Oui, absolument.
Le bon plan, c'est le plongeon dans le grand bain, dans mon jardin. Résultat, des joyaux, le leader de la piscine en France croule sous les demandes de devis. 2 à 3 fois plus qu'au printemps dernier et des contacts en hausse de 400%, m'a dit son directeur commercial Nicolas Desjoyaux. La marque Water Air, spécialiste de la piscine en kit, annonce la couleur sur son site avec ce slogan « Une piscine facile à installer pour cet été. Grâce à des panneaux en acier, on peut la monter soi-même en quelques jours. Alors ne comptez pas vous baigner, hein, vous baigner dans la méga piscine à débordement comme dans les palaces de Las Vegas. Mais pour se rafraîchir en famille, Nathalie, c'est parfait pour un tarif qui ne vous ne fera pas boire la tasse à partir de 7000 euros seulement.
Voilà, en revanche, là, pour les piscines plus haut de gamme, celles en béton ou avec coque, là, c'est la course contre la montre parce qu'il va falloir terminer les chantiers au mois de juillet.
Oui, et les artisans piscinistes confinés, eux aussi, ont repris les travaux fin mai seulement. Les livraisons de coque et de liner ont également été retardées. Il y a donc embouteillage. Tous ceux qui passent une commande ferme aujourd'hui doivent aussi prendre en compte la déclaration de travaux qui peut prendre un mois, donc pas de trempette avant août-septembre. Pour les plus pressés, reste la solution de la location. Oui. J'ai eu au téléphone Raphaël de Montenard, fondatrice de Swimmy, le Airbnb du bassin. Pour 20 euros par personne, pour une demi-journée, vous pouvez aller entre amis ou seul barboter dans la piscine de vos rêves. Il y en a 2300 au catalogue, sans jamais vous préoccuper du taux de pH et du chlore pour éviter que l'eau ne tourne au vert.
Mais on va où? On va dans la piscine des voisins?
Oui.
Mais oui, ah oui. Et oui. Même là en région parisienne, oui. Sébastien, il y en a tout près. Ah oui, il y en a partout.
Ça fait un carton là.
Incroyable. Non, mais gros succès pour ces piscines. Oui. Merci beaucoup Jean-Pierre Montané. On va donner les adresses à Sébastien Krebs.
Oui, je prends. Là.
Juste après. Merci à tous les deux. Anissa, bon, on peut quand même attendre un peu parce que du côté du temps, on n'y est pas pour plonger.
Oui,
hein.
Il va falloir effectivement garder les maillots encore au placard pendant quelques semaines. Mais rassurez-vous, cet été, vous allez pouvoir vous en servir. Nous avons actuellement en France 8 départements en vigilance orange. Il s'agit des Côtes d'Armor, du Finistère, le Morbihan, la Haute-Loire, le Cantal, la Lozère, le Gard et l'Aveyron. Attention, vigilance orange, pluie, inondation et orage. Alors sur la Corse, hein, c'est vrai que là, les Corses viennent de vivre des heures très compliquées. Il vient de tomber l'équivalent d'un mois de pluie en quelques heures. Alors demain, le temps se calme en Corse, le soleil est de retour et le temps redevient sec. C'est dans le centre de la France, des Hauts-de-France jusqu'au Languedoc, sur une bande assez centrale, que la journée sera la plus compliquée demain, du Languedoc à la Bourgogne en passant par l'Auvergne. Une journée très pluvieuse, avec des pluies soutenues et des orages qui éclatent, notamment sur le massif central demain après-midi. Au bord de la Méditerranée, le ciel est nuageux. Sur les Alpes et la Corse, je vous le disais, le soleil est de retour. Et puis en Bretagne, Normandie, centre et région parisienne, et bien là, les pluies du matin s'éloigneront tranquillement au fil des heures pour laisser place au soleil sur la façade atlantique. C'est là que la journée sera la plus belle, comme quoi les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Au bord de l'Atlantique avec du beau temps demain. Les températures 8 à 13 degrés demain matin et ça grimpe dans l'après-midi avec 23 à 29 à l'est et 15 à 23 partout ailleurs.
Europe 1.
À la suite de votre grand journal du soir sur Europe 1, Nathalie Lévy avec votre invitée dans un instant.
Et oui, parce que demain, c'est le lancement de la plateforme Vacances Apprenantes, initiée par le ministère de l'Éducation nationale. Pour proposer quoi? Eh bien, pour proposer aux jeunes un soutien pédagogique cet été, après 3 mois d'école fermée. Les détails, c'est dans un instant, avec mon invité, le secrétaire d'État à la jeunesse et à l'éducation, Gabriel Attal.
Europe 1.
Il est 19h20 sur Europe 1. Votre grand journal du soir se poursuit avec vous, Nathalie Lévy. Et on se tourne vers demain avec le lancement de la plateforme internet Vacances Apprenantes, initiée par le ministère de l'Éducation nationale. Pour en parler, vous recevez, Nathalie, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, Gabriel Attal.
Bonjour Gabriel Attal.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être à mon micro sur Europe 1. Vous êtes le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation et de la Jeunesse. Alors voilà ce que vous prévoyez pour cet été, des vacances apprenantes et des écoles ouvertes. L'objectif est là, sur le papier, ça fait envie bien sûr, mais il va falloir mettre les moyens, à la fois financiers et humains, dans ces collectivités, dans ces établissements. Comment ?
En travaillant avec les acteurs. Ça fait plusieurs mois maintenant qu'on réunit les mouvements d'éducation populaire, les associations qui organisent des colonies de vacances pour préparer avec elles ce plan massif pour le départ cet été. Au fond, on sort d'un moment qui a été très difficile pour les Français d'une manière générale, mais pour les jeunes et les enfants en particulier, avec ce confinement qui a été difficile pour eux parce que c'est des moments où ils ne se sont pas aérés, où ils n'ont pas rencontré d'autres enfants. Et aussi des moments où ils ont moins appris que ce qu'ils apprennent normalement à l'école. Et l'objectif de cet été, c'est de mettre le paquet pour leur permettre de s'évader, de s'aérer, de vivre des expériences, et puis aussi d'apprendre. C'est pour ça qu'on parle de colonies de vacances apprenantes, avec des modules qui permettront de rattraper des choses qui auront été manquées du fait du confinement.
Alors, il faut donc des moyens humains et des moyens financiers. Ouais. Quels sont-ils ?
Alors, on débloque 200 millions d'euros pour cet été, ce qui est massif. Hein. Jamais un gouvernement n'avait autant soutenu financièrement le départ en vacances d'enfants sur un été. Donc, c'est 250 000 enfants qui vont pouvoir partir en colonie de vacances. C'est 400 000 enfants qui pourront être accueillis dans ce qu'on appelle les écoles ouvertes. Très concrètement, ça veut dire que les écoles restent ouvertes, que le matin, il y a des cours avec des enseignants. Et puis, l'après-midi, des activités sportives, des activités culturelles. Donc, il y aura besoin de moyens humains, évidemment. Donc, on va
Vous parlez de cours avec des enseignants. On entend bien et on se dit effectivement, c'est super. La perspective est là et l'objectif très clair. Mais quand on voit cette enquête de France Télévisions qui révèle que 40 000 professeurs ont été décrocheurs, n'ont pas assuré le suivi auprès de leurs élèves, comment vous allez les retenir, ces professeurs ? Comment vous allez avoir les effectifs ?
Vous savez, il y a une longue tradition chez beaucoup d'enseignants de travail en ce qu'on appelle éducation formelle, éducation informelle. Où vous avez des enseignants de l'éducation nationale qui, l'été, s'engagent dans l'éducation populaire. Ça a toujours existé. Donc oui, on va avoir besoin d'enseignants pour les mobiliser cet été, mais j'ai aucun doute sur le fait qu'on y parviendra. Par ailleurs, il y a une rémunération supplémentaire à la clé, ce qui est aussi une incitation très forte. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants qui ont cet engagement-là et cette envie aussi de continuer à transmettre, parfois de manière un peu différente, un peu plus ludique, et qui seront au rendez-vous cet été. Il faudra aussi des animateurs pour les colonies de vacances. Vous savez que les colonies de vacances, c'est des animateurs qui ont le BAFA, qui les animent. La plupart des formations BAFA ont lieu normalement au printemps et donc, du fait du confinement, elles n'ont pas eu lieu. Donc, on va rechercher pour cet été 10 000 animateurs BAFA. C'est aussi des perspectives pour des jeunes qui, en ce moment, vous savez, se posent beaucoup de questions sur la possibilité d'avoir un emploi saisonnier. Et donc, moi, le message que je veux faire passer, c'est qu'il y a des perspectives dans l'animation pour cet été, comme il y en a d'ailleurs dans le tourisme, la restauration. On débloque une enveloppe de 30 millions d'euros pour cofinancer des formations BAFA pour les jeunes en lien avec les collectivités locales.
Ça, c'est une annonce que vous nous faites aujourd'hui. C'est quelque chose d'établi ?
Oui, absolument, c'est établi. Vous savez, le BAFA, ça coûte un peu d'argent, quelques centaines d'euros pour le passer. Tous les jeunes ne peuvent pas forcément se le payer. Il y a des collectivités locales qui mettent en place des aides. Et donc, on met en place ce fonds pour venir renforcer les aides des collectivités locales pour qu'il y ait davantage de jeunes qui puissent y accéder.
Gabriel Attal, les enfants sont peu contagieux, peu malades. Si le Conseil de défense, ce sont les dernières études qui le disent, si le Conseil de défense de demain vendredi valide l'allègement du protocole sanitaire, est-ce que dès lundi, les écoles pourront accueillir plus d'élèves ? La totalité, le double, à l'heure actuelle, on est sur 27% des écoliers, à peu près.
C'est vraiment ce qui va être discuté demain dans le Conseil de défense. Et moi, je peux vraiment pas préjuger de ce qui va être décidé. Mais avec Jean-Michel Blanquer, on souhaite évidemment que l'assouplissement puisse avoir lieu le plus rapidement possible pour que davantage d'enfants puissent retourner à l'école d'ici à la fin du mois. Et puis, on prépare évidemment la rentrée scolaire de septembre prochain pour que là, on puisse vraiment garantir à toutes les familles que leurs enfants seront accueillis tous les jours, toute la semaine à l'école.
Vous pensez qu'on sera fixé quand sur cette rentrée scolaire ? Parce qu'effectivement, la FCPE, la principale fédération des parents d'élèves, demande déjà en tout cas que 100% des élèves soient de retour à l'école. Ça s'organise aussi, encore une fois, un peu pour les parents.
Bien sûr, et je peux vous dire que Jean-Michel Blanquer est très mobilisé pour anticiper, pour préparer dès maintenant, y compris en lien avec les organisations syndicales. Il y a une donne, évidemment, qu'on ne maîtrise pas, c'est la situation épidémique. On ne sait pas ce que ce sera en septembre. Est-ce que les voyants seront encore au vert, comme c'est le cas aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, moi, le message que je veux faire passer, c'est que on se prépare à toutes les éventualités pour que, quoi qu'il arrive, on puisse dire aux familles, vos enfants seront accueillis à l'école toute la semaine, y compris s'il faut développer des activités sportives, culturelles, parce que tous les enfants ne pourraient pas être dans la classe au même moment, par exemple.
Est-ce qu'on le saura avant de partir en vacances, c'est-à-dire à la mi-juillet, par exemple? Est-ce qu'on peut imaginer être fixé sur cette rentrée scolaire de septembre qui pose tellement de questions à la mi-juillet?
Nous, on travaille avec Jean-Michel Blanquer pour effectivement donner des garanties très fortes aux familles avant le départ en vacances.
Évidemment, on l'a dit, il y a la question de l'emploi des jeunes qui préoccupe énormément à cause de la crise. C'est eux-mêmes qui se décrivent comme une génération galère, voire sacrifiée. Leur chômage est structurellement plus élevé que celui de l'ensemble de la population. Il y a urgence, Gabriel Attal, 700 000 jeunes vont débarquer sur le marché du travail à la rentrée. Est-ce qu'il faut récompenser les entreprises qui embauchent des jeunes?
Oui, il y a urgence. Il y a urgence parce que l'emploi des jeunes, le développement de l'apprentissage, ça fait partie de nos grandes priorités depuis 2017. Et les résultats ont commencé à être très fortement au rendez-vous dès l'année dernière. Je rappelle, augmentation historique du nombre de jeunes en apprentissage, plus 16%. On a frôlé les 500 000. Le chômage des jeunes qui reste évidemment trop élevé, mais qui a diminué progressivement jusqu'au confinement. Et l'enjeu, c'est de ne pas casser cette dynamique et de continuer. Donc il y a déjà des premières mesures qui ont été annoncées avec Muriel Pénicaud pour l'apprentissage. Avec une prime massive qui va jusqu'à 8000 euros pour les entreprises qui recrutent un apprenti. Très concrètement, pour une entreprise, ça ne coûtera quasiment rien de recruter un apprenti cette année. Et ouais, ça, c'est déjà un engagement très fort. Et
puis on là, vous nous parlez d'apprentissage, mais ouais, quid de cette mesure que je viens de vous soumettre? Absolument. Mais est-ce qu'on peut imaginer cette mesure de récompense des entreprises qui embauchent des jeunes outre l'apprentissage?
C'est une piste de travail. Moi, je veux quand même insister sur le fait que les entreprises ont été très soutenues et très aidées depuis le début du confinement. La France est un des pays qui a mis en place le plus de moyens pour soutenir les entreprises. Et c'est évidemment nécessaire, mais je rappelle le prêt garanti par l'État, le chômage partiel. Et donc, déjà, en retour de ce soutien massif, on attend des entreprises qu'elles aient une attention particulière pour les jeunes. Et on travaille en ce moment à des mesures supplémentaires, celles que vous évoquez qui seraient une forme de prime à l'embauche, ça fait partie des pistes de travail possibles. Il y a une concertation avec les organisations syndicales et le patronat en ce moment, mais il y a d'autres pistes aussi qui sont sur la table.
Alors justement, l'autre piste n'est-elle pas celle des Républicains qui proposent aujourd'hui une exonération des charges pour toute embauche de jeunes de moins de 25 ans? Ça permettrait, dit Guillaume Pelletier, le vice-président du parti, de créer 100 000 emplois.
Je suis pas certain de l'efficacité de cette piste par rapport aux autres, et je suis pas certain du tout du chiffrage qui est avancé que vous venez d'évoquer. Vous savez, aujourd'hui, au niveau du SMIC ou jusqu'à 2000 euros, il n'y a quasiment plus aucune charge parce qu'elles ont été baissées progressivement par le gouvernement pour faire baisser le coût du travail. Or, la majorité des jeunes aujourd'hui, quand ils sont recrutés sur ce niveau de salaire-là. Donc, je ne pense pas que ce soit la solution la plus efficace. Encore une fois, il y en a d'autres qui sont sur la table, qui sont possibles.
Merci beaucoup, Gabriel Attal, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation et de la Jeunesse, d'avoir répondu à mes questions sur Europe 1. Merci à vous.
Merci.
Europe 1.
À suivre, Nathalie Lévy.
Et oui, on reste ensemble encore pendant une demi-heure jusqu'à 20h. Et cette question, va-t-on devoir travailler plus pour sauver l'emploi? Temps de travail, salaire, vacances, le débat est ouvert largement. Hein, avec vous, bien sûr, et vos questions et vos réactions aussi. C'est au 3921. Hashtag Europe 1.
Europe 1.
19h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Et votre rappel des titres, Sébastien Krebs.
La confiance est rompue, Christophe Castaner est indigne d'être ministre de l'Intérieur, lance Yves Lefebvre. Pour le syndicat Unité SGP Police, c'était sur Europe 1 tout à l'heure. À Roubaix et dans d'autres commissariats, les agents ont déposé symboliquement leurs menottes à terre. Le discours sur le racisme et les méthodes d'interpellation ne passent pas au sein de la police. De nouveaux repreneurs intéressés par la halle, 25 offres reçues par le groupe Vivarte pour l'enseigne de chaussures et de vêtements. Plus de 600 magasins sur 800 pourraient finalement être sauvés. À retenir aussi ce soir, la cour d'appel de Paris qui demande la reprise des investigations sur les accusations de viol visant le ministre des Comptes Publics, Gérald Darmanin. Jamais la France n'avait détruit autant d'emplois, 500 000 au premier trimestre. Bruno Le Maire demande un retour à la normale de l'activité cet été. La Commission européenne veut accélérer sur l'ouverture des frontières le 15 juin, donc lundi prochain, pour les frontières intérieures et le 1er juillet pour les pays tiers, selon des critères communs qui restent à définir entre les différents pays européens. Enfin, la Liga de football, le championnat espagnol, va reprendre ce soir avec un derby à Séville, match à huis clos. Messi rechaussera les crampons avec le Barça samedi. Il y a 110 matchs à rattraper en 6 semaines.
Merci beaucoup Sébastien, à demain 18h. Bon, on compte sur vous. Anissa, vigilance, prudence, c'est le programme. Hein.
Oui, effectivement, le temps est très agité hein, sur la France. Vous l'avez constaté depuis quelques jours. Ça va durer encore jusqu'au week-end avec 8 départements placés en vigilance orange par Météo France. Les Côtes d'Armor, le Finistère, le Morbihan, la Haute-Loire, le Cantal, la Lozère, le Gard et l'Aveyron pour pluie, inondation et orage demain. Alors, pour vous résumer la journée de demain, c'est assez simple. Sur la façade atlantique, nous aurons du soleil de la Bretagne jusqu'au Pays Basque. À l'est de l'Alsace jusqu'à la Côte d'Azur, là c'est un temps plutôt mitigé avec éclaircies et nuages. Et entre les deux, c'est de la pluie. Des Hauts-de-France jusqu'aux Cévennes, c'est une journée agitée demain avec de la pluie et des orages sur le Massif central et les Cévennes. Les températures, 8 à 13 degrés, c'est assez stationnaire le matin, ça grimpe l'après-midi avec 23 à 29.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec vous, Nathalie Lévy. Et avec cette question ce soir jusqu'à 20h, va-t-on devoir travailler plus pour sauver nos entreprises de la crise ? Avec vous, pour en débattre, Bertrand Martineau, économiste, spécialiste de l'emploi et du marché du travail à l'Institut Montaigne, et Vincent Gautron, secrétaire national de la CGT Ingénieur Cadre.
Bonsoir messieurs, bienvenue.
Bonsoir. Bonsoir.
Bienvenue dans ce studio où pourrait-on poser aussi cette question, la baisse des salaires est-elle la solution à privilégier pour sauver les emplois ? Ça fait partie aussi de ce qui est mis sur la table aujourd'hui. Emmanuel Macron a réuni la semaine dernière les partenaires sociaux, c'était jeudi dernier, avec évidemment une demande. Comment fait-on pour sauver l'emploi ? Qu'est-ce que vous en dites, vous, Bertrand Martineau, aujourd'hui ? Vous êtes économiste. Les pistes qui sont sur la table, si j'ose dire, la baisse des salaires, des alternatives au licenciement qu'on commence à voir poindre comme chez De Richebourg ou Ryanair, est-ce que ça fait sens ?
Alors, la seule chose qui fait sens pour parler de ces sujets, c'est de le traiter au niveau local, c'est-à-dire au niveau de l'entreprise. Il y a autant de situations particulières qu'il y a d'entreprises. Selon la taille, selon le secteur, selon leur positionnement dans la chaîne de valeur, selon que les difficultés sont conjoncturelles ou ce sont des difficultés durables ou la survie de l'entreprise est en jeu, c'est à ce niveau-là qu'il faut traiter les sujets. Donc le droit doit être souple et les partenaires sociaux, aussi bien du côté des organisations syndicales que des employeurs, pour réussir ces équilibres délicats, doivent à mon avis faire preuve de deux qualités et j'insiste sur le fait qu'elles doivent concerner les deux parties, c'est la loyauté dans les négociations, c'est-à-dire mettre les vrais chiffres sur la table, être transparent, être en situation de confiance, et deux, être en situation de se mettre en situation de responsabilité, c'est-à-dire que c'est sur les épaules des partenaires sociaux, employeurs et organisations syndicales, entreprise par entreprise, que ça va se jouer finalement.
Ouais. Et c'est ce qu'a dit Muriel Pénicaud. J'appelle les entreprises en difficulté à négocier des accords de performance collective. Ça passe par là pour ensuite réussir à se mettre autour d'une table, discuter. Comment vous voyez les choses aujourd'hui, Vincent Gautron, vous, à la CGT ? Est-ce que tout cela vous hérisse ?
En fait, la vraie question, c'est qui veut-on satisfaire ? Est-ce qu'on veut réellement maintenir l'emploi et les entreprises ou est-ce qu'on veut répondre avant tout aux injonctions de la financiarisation de l'économie ? C'est là la vraie question.
Il y a quand même aujourd'hui les conséquences d'une crise sanitaire mondiale avec des plans sociaux et ces plans sociaux-là, il faut bien trouver...
J'entends. Cependant, si demain vous baissez les salaires, qu'est-ce qui se passe ? Il y aura moins de pouvoir d'achat, donc moins de consommation, donc moins de débouchés pour les entreprises, donc moins de production, donc encore moins besoin d'emploi.
Mais si
donc
on ne baisse pas les salaires, voilà. Ce sera potentiellement des plans sociaux avec un quart des effectifs dans certains cas.
Obligatoirement. Depuis plusieurs années, on voit que la part de la rémunération dans la valeur ajoutée en France baisse, ce qui n'est pas le cas de la part de rémunération du capital. Voilà. Alors, ce n'est pas que le capital est un gros mot. Oui, il faut un capital, mais la question, c'est de savoir, est-ce que le capital est un outil au service de la population pour améliorer via le progrès social, investir, etc. Ou est-ce que la population est soumise au dieu capital et donc il faut sacrifier des salariés pour répondre
donc
à ces injonctions.
Pour vous, c'est une fin de non-recevoir. J'entends ce que vous dites et c'est très intéressant. On va en débattre, évidemment. Bertrand Martineau, dites-moi juste ce que vous pouvez répondre, évidemment, ce soir à Vincent Gautron. En deux secondes, on y reviendra après, on est un auditeur.
Oui, mais on n'est pas... Encore une fois, il faut regarder la situation entreprise Bien par sûr. Entreprise. On n'est pas dans la situation du capital qui veut esclavagiser le travail. Ce sont des choses concrètes. C'est une baisse de chiffre d'affaires, c'est une dégradation des résultats de l'entreprise, c'est des entreprises surendettées, c'est des entreprises qui vont faire faillite, tout simplement. Et donc la question de savoir si on privilégie de sauver des emplois, quitte à perdre un peu de salaire. Alors il y a plein de façons de perdre du salaire. Soit on diminue le temps de travail et on diminue un peu le salaire, soit on augmente le temps de travail, on augmente le salaire, mais pas à due proportion. Il y a plein de façons de faire.
Alors, voilà.
Ou alors on se retrouve au chômage et voilà, c'est un arbitrage
qu'il faut
faire.
D'ailleurs, il n'y a pas que le salaire. Il y a les indemnités de transport parfois qui peuvent être vues à la baisse.
Il y a des contreparties aussi.
On en reparle. Attendez, vous avez une demi-heure, messieurs. On en reparle dans une petite seconde avec nos éditeurs aussi. On sera en Haute-Marne dans un instant.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 jusqu'à 20h avec Nathalie Lévy. On s'intéresse à l'avenir de nos entreprises après cette crise économique avec vos invités Bertrand Martineau, économiste spécialiste de l'emploi et du marché du travail à l'Institut Montaigne, et Vincent Gautron, secrétaire national de la CGT Ingénieurs Cadres.
Et nos auditeurs également. Bonsoir Christophe.
Bonsoir.
Bienvenue sur Europe 1, vous nous appelez de Haute-Marne ce soir. Vous êtes chef d'entreprise, vous. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui de ces pistes qui sont sur la table, notamment de baisse de salaire ou de rallongement de la durée du temps de travail ?
Je trouve que c'est absurde, en fait. Mon souci à moi en tant que petite entreprise, c'est de redévelopper mon entreprise et j'ai besoin de mes collaborateurs, j'ai besoin de gens motivés, j'ai besoin de gens qui vont aller avec moi, à mes côtés, reconquérir les parts de marché qui me manquent. Voilà, je suis à moins 50% de chiffre d'affaires au 31 mai. Mon souci à moi, c'est de passer un cap. Mmh. Et pour se passer ce cap-là, j'ai besoin que mes collaborateurs soient motivés. Ils aient envie de travailler. Donc, je suis surpris qu'on ne parle que du bas du bilan. C'est-à-dire qu'on ne parle que de faire des économies par le bas du bilan. Mon souci à moi, en tant que chef d'entreprise, c'est le développement par le haut. C'est de sortir grandi de cette crise et de voir plus loin. Et de redonner sens, de redonner une motivation aux gens qui travaillent à mes côtés.
Voilà, on entend votre témoignage, Christophe. Surtout pas donc ces baisses de charges de cotisation. C'est la même tonalité finalement de ce que nous disait Vincent Gautron qui est ce soir sur ce plateau, dans ce studio. Et du coup, vous allez pouvoir interagir avec eux deux, Bertrand Martineau.
Mais il n'y a pas de problème. Enfin, si ce chef d'entreprise est capable de payer ses salaires comme sans problème, voire de les augmenter, tant mieux qu'il le fasse. Surtout qu'il le fasse. Voilà, mais malheureusement, toutes les entreprises ne sont pas dans cette situation.
Mais au-delà de ça,
c'est précisément pour ça qu'il n'y a pas de réponse nationale, il n'y a que des réponses locales.
Mais au-delà de ça, Bertrand Martineau, et ce que disait très justement Vincent Gautron, c'est si on baisse les salaires, c'est une conséquence inévitable, la baisse du pouvoir d'achat. Qu'est-ce que vous répondez à cela ?
Mais une augmentation du chômage de plusieurs millions de personnes serait encore beaucoup plus dramatique que des baisses de salaire de 2, 3 ou 4 %. Regardez, juste si vous me permettez, il faut regarder ce qui s'est passé lors de la dernière crise de 2008-2009. En France, on a licencié massivement. Et en fait, on a surtout fait baisse de l'intérim et sur les marges du marché du travail et des CDD, évidemment. En Allemagne, c'est par la flexibilité interne des entreprises que le choc a été absorbé et le chômage en Allemagne n'a pas augmenté lors de la crise de 2008-2009. Pourquoi ? Parce qu'ils ont joué sur les variables temps de travail et rémunération.
Alors, votre réponse, Vincent Gautron, parce que y a quand même des salariés aujourd'hui qui jouent le jeu. Donc si certains acceptent cela pour sauver leur poste, et on ne parle pas de chantage, hein, on n'en est pas là, mais s'ils acceptent ça, pourquoi est-ce que finalement ça ferait pas sens à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle ?
Déjà avant la crise, ça fait près de 40 ans que les salariés font des sacrifices à plus ou moins importants sur leurs conditions de travail. Allègement du code du travail, remise en cause des 35 heures avec des défiscalisations des heures supplémentaires, etc. Là, ce n'est pas 2 mois de vacances que viennent de s'offrir les salariés, je suis désolé, mais il y a quand même des salariés qui, malheureusement, dès le début du confinement, ont été au chômage. D'autres ont cumulé des périodes de chômage partiel, d'activité. On a oublié aussi qu'il n'y a aucune mesure de prévention psychologique durant le confinement.
Il y a eu quand même pas mal de mesures mises en place.
Je suis désolé, si vous me permettez, parce que c'est un sujet d'actualité. Ouais. Télétravail.
Bien sûr.
Avant la mise en place, avant la période que nous venons de vivre, l'UGICT CGT, donc la CGT Encadrement, fait un sondage tous les ans. On a 60% des cadres qui demandent un droit à la déconnexion. L'UGICT a fait un questionnaire, une grande enquête nationale durant la période de confinement, 34 000 réponses sur l'ensemble des salariés qui ont répondu et qui sont au télétravail. 80% n'avaient pas accès au droit à la déconnexion.
C'est important ce que vous dites, mais c'est un autre aspect.
Et ces travailleurs ont dû en même temps cumuler les fonctions de continuité pédagogique.
Alors, on va y revenir dans un petit instant. Vous avez raison de le souligner, parce qu'effectivement, c'est aussi peut-être un changement de paradigme, donc il faut prévenir ça. Bertrand Martineau, vous allez réagir dans un instant. Mathilde nous appelle de Bordeaux. Bonsoir Mathilde.
Bonsoir.
Vous êtes, je crois, dans le secteur bancaire. Que dites-vous ?
Exactement. Moi, je dis que l'État a déjà fait beaucoup d'efforts pour sauvegarder l'économie. Mmh. Nous sommes aussi
avec notamment
dans
les mesures de chômage partiel.
Exactement. Nous sommes dans une société où nous sommes très privilégiés. Il faut regarder un petit peu nos petits voisins européens ou les États-Unis. Donc, il me semble naturel de aussi nous, de notre côté, faire un peu notre part du travail.
Du chemin.
Et c'est limite un sens civique pour moi. Donc, moi, ça me paraît très naturel.
Ça vous paraît très naturel. C'est pas si fréquent hein, d'entendre ce discours parmi les salariés. Merci beaucoup Mathilde de nous avoir contacté ce soir sur Europe 1. Bertrand Martineau, il y a deux écoles, mais effectivement l'école défendue par Vincent Gautron, comme quoi c'est pas aux salariés de baisser, mais c'est une baisse du côté des actionnaires qu'il faut évidemment réclamer. Évidemment, ça fait sens aussi.
Mais on parle d'économie réelle, là. On ne parle pas d'économie financière, de financiarisation. Par ailleurs, il peut y avoir des sujets, mais là, on parle d'économie réelle. C'est l'économie réelle qui s'est effondrée. Il y a une perte de richesse, d'absence de création de richesse, qui est de plusieurs centaines de milliards d'euros. Bon, on parle d'une récession de 11% du PIB, d'après le gouvernement, ce qui est une hypothèse assez vraisemblable. Ça peut paraître complètement abstrait. C'est 275 milliards de revenus qui va échapper aux Français. Il va bien falloir le payer. Bon. Et quant à votre auditrice qui dit que l'État fait beaucoup d'efforts, elle a parfaitement raison. Mais il faut compléter. L'État, c'est nous.
Oui, mais c'est ça. C'est ce que j'allais vous
c'est
dire.
C'est pas une
c'est
personne
ça, c'est
indépendante.
C'est nos impôts. C'est nos
c'est
impôts.
Nos impôts. C'est nos impôts. C'est l'impôt. C'est les impôts de nos enfants. Donc, ce qu'on fait. Alors, bien sûr, le chômage partiel, c'est formidable. Les protections sociales sont formidables. L'âge de la retraite à 62 ans, c'est extraordinaire. Mais enfin, ce sera payé par nos enfants. Il faut jamais
et
oublier
durablement.
Ça. Donc, il y a derrière tout ça, il y a deux niveaux, si vous voulez. Il y a le niveau micro, le niveau local, où entreprise par entreprise, si on veut éviter une catastrophe économique sur l'emploi, il va bien falloir que chacun fasse des efforts. Et quand je dis chacun doit faire des efforts, les employeurs aussi. Dans un accord de performance collective, il peut y avoir des engagements de modération des salaires des dirigeants, il peut y avoir des engagements sur l'investissement de l'entreprise, il peut y avoir des engagements sur les dividendes. Voilà. Donc il y a le niveau micro. Et puis il va y avoir un autre sujet qui est un niveau plus national, c'est dans les années qui viennent, pas immédiatement, et dans les années qui viennent, comment on s'organise collectivement pour produire davantage et pour réduire la charge qui va peser sur les actifs d'aujourd'hui et sur les actifs de demain.
Pendant plus de 50 ans. On se retrouve dans un instant, Vincent Gautron, vous aurez votre droit de réponse, bien entendu. On vous écoute avec les auditeurs également qui nous rejoignent. À tout de suite.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe avec Nathalie Lévy et vos invités. Nathalie, on parle de nos entreprises. Comment les sauver après cette crise? Vous pouvez réagir au 3921 ou sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Et oui, on en discute avec nos auditeurs, avec vous Bertrand Martineau et Vincent Gautron, secrétaire national de la CGT, ingénieur cadre. On entendait cette auditrice de Bordeaux qui nous disait, bah oui, il faut faire un effort. Ça participe de la situation de crise, de l'effort civique qu'il doit y avoir. Ça ne me choque pas de travailler plus.
Ah, écoutez, je faisais référence tout à l'heure en disant que les salariés venaient pas de s'offrir 2 mois de vacances. Je tiens quand même, parce qu'il y a peut-être des auditeurs qui ne le savent pas, mais dans le cadre de la loi sur l'état d'urgence sanitaire, il y a une série de mesures qui ont été prises, et notamment le fait que jusqu'au 31 décembre 2020, tout employeur peut aujourd'hui moduler le temps de travail pour atteindre 60 heures par semaine. Par exemple. Qu'il y a des salariés durant la période de chômage partiel qui ont été rémunérés à 100%.
Ou qui ont été contraints de travailler, c'est encore un autre aspect.
Mais la rémunération à 100%, a été financée par les autres salariés ou les salariés eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ont monétisé des jours de congé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils vont avoir moins de jours de congé. Donc on peut continuer, on peut dire qu'il faut supprimer des congés. Et après, on va nous expliquer que l'industrie du tourisme est à la limite de la catastrophe et qu'il va falloir réinjecter de l'argent. Et du coup, comment on va faire? On va injecter de l'argent dans un secteur touristique alors que personne ne pourra partir en vacances puisque les salariés devront aller travailler plus.
Donc qu'est-ce qu'on fait? J'entends bien, mais qu'est-ce qu'on fait alors, Vincent Gautron? Parce que au cas par cas, dans une entreprise qui fait pas de profit, qui a pas d'actionnaire, dans une petite ou moyenne entreprise, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on demande pas aux salariés de effectivement renoncer à leurs indemnités de transport ou de repas? Est-ce qu'on peut pas imaginer ça en bonne intelligence? Évidemment, ça c'est pas quelque chose d'entendable.
Mais la difficulté, c'est qu'à chaque fois, et j'entends ce que dit Monsieur Martineau, j'ai aucun souci là-dessus. On parle d'économie réelle, mais à chaque fois, le débat est monopolisé par l'économie non réelle et par les grands donneurs d'ordre que sont les grands groupes
financiers.
C'est
pour ça que je ramène ça à une petite ou moyenne entreprise. C'est pour ça que je ramène ça là ce soir précisément à une petite ou moyenne entreprise. Qu'est-ce qu'on fait concrètement?
Le problème, c'est que il y a deux grandes entreprises qui ont défrayé l'actualité aujourd'hui sur leur situation financière, c'est Air France et Renault. Et bien évidemment, derrière, il y a des milliers d'emplois directs ou indirects. Mais Renault et Air France sont en difficulté sur des erreurs
sur des erreurs de stratégie,
mais donc vous ne m'avez pas,
pas
répondu
sur le Covid.
Vous ne m'avez pas répondu sur l'économie réelle. Mais alors,
il faut, alors, oui, non, non, il faut aider les entreprises. Mais il faut aider les entreprises, on est d'accord. Mais il faut conditionner l'aide aux entreprises. Et c'est là où on a une difficulté, c'est que là, le patronat et ces grands groupes demandent de l'argent public, mais quand la collectivité demande à avoir un œil sur l'utilisation, on lui dit « Ah non, certainement pas ».
Alors, attendez, Bertrand Martineau, j'arrive, je prends au téléphone Jules, qui nous appelle de Strasbourg. Bonsoir à vous. Bonsoir,
oui,
bienvenue
bonsoir.
Jules. Vous êtes, vous, salarié dans l'agroalimentaire. Dites-nous.
Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, du coup, moi, notre patron, il nous demande de travailler plus, de prendre moins de congés, voire même beaucoup moins de congés. Après, nous, on a dû être au chômage technique, au chômage partiel, pardon, pendant tout le confinement, quasiment. Mais moi, je suis pas tout à fait d'accord non plus avec ça, parce que lui, finalement, lui garde, parce qu'on fait partie d'un grand groupe, donc il va garder ses actions. Regardez, c'est évident. Donc lui, il est content, le patron. Sauf que nous, du coup, de petits salaires, finalement, on doit bosser plus et peut-être gagner moins.
Ouais, c'est ça. On revient effectivement sur un grand groupe et on voit effectivement que quand les efforts sont demandés aux salariés au lieu des actionnaires, définitivement, ça coince. Merci Jules de votre appel depuis Strasbourg. Le problème, c'est ça, Bertrand Martineau, c'est que on a du mal, en fait, à dissocier le type d'entreprise dont on parle et on voit bien que ça revient toujours en boucle, hein, les actionnaires.
Oui.
Et l'effort demandé aux salariés.
Il n'est pas possible, en droit, de diminuer la rémunération qu'il y a sur les contrats de travail, sauf dans des cas particuliers où il y a accord collectif. Pour qu'il y ait accord collectif, il faut que les organisations syndicales signent. Et pour que les organisations syndicales signent, il faut quand même que l'employeur ait des raisons solides, qu'il ait des chiffres, qu'il parle vraiment de manière loyale, et qu'il y ait un problème de survie de l'entreprise. Donc, je ne pense pas que l'employeur puisse imposer à cet auditeur de travailler plus et de gagner moins. Ce n'est possible que dans certains cas, s'il y a accord collectif, il faut que les organisations syndicales majoritaires dans l'entreprise signent un accord.
Oui, mais ça, c'est pas toujours le cas dans les petites et moyennes entreprises. Vous savez, Bertrand Martineau, il n'y a pas toujours.
Ça peut être par référendum.
C'est le licenciement. S'il refuse, c'est le licenciement, puisque grâce aux ordonnances Macron de son début de quinquennat, il n'y a plus besoin de justifier le licenciement. Donc le simple refus, ce sera le licenciement.
S'il y a eu accord collectif dans le cadre d'un accord performance collectif.
Mais après, il y a aussi un point, je pense, qui est très important pour aider les entreprises. C'est les débouchés. Parce que là, vous avez plein d'entreprises qui ont continué à produire durant le confinement. Pas à même hauteur, j'entends, etc. Mais qui ont continué à produire et qui aujourd'hui ont des stocks. Si demain, elles n'ont pas de débouchés, elles ne vont pas continuer à produire. Il y a bien aussi cette problématique. Donc on ne peut pas simplement voir sur la question de la rémunération ou du temps de travail. Il faut voir sur l'ensemble et donc sur le débouché de la production. Et puis, il y a peut-être aussi d'autres pistes. Je pense notamment à un grand secteur qui fait quand même beaucoup parler de lui.
Mais vous me parlez encore des grands secteurs ?
Oui, mais derrière, ça concerne des petites entreprises derrière. Ou même ça concerne des producteurs. C'est la grande distribution. Est-ce qu'il faut continuer à laisser la grande distribution payer seulement à 60 ou 90 jours les fournisseurs? Je ne pense pas. Je pense que la grande distribution peut réduire les délais de paiement justement pour aider les producteurs ou les petites PME. Arrêter les intermédiaires du numérique qui ne servent à rien, à part obliger certains hôteliers ou restaurateurs à vendre à perte pour pouvoir être affichés en haut de leur site.
Alors, d'un mot, Bertrand Martineau, parce qu'on voit bien que le sujet, évidemment, est sur la table aujourd'hui et qu'on a une fin de non-recevoir des syndicats, globalement, sur cette baisse de salaire ou sur le travailler plus.
Non, pas du tout. Il faut totalement distinguer ce qui se passe au niveau national, où il y a un discours évidemment général, national, de principe, et ce qui se passe au niveau des entreprises. Quand les organisations syndicales regardent les comptes des entreprises, regardent l'évolution du chiffre d'affaires, regardent l'évolution de la masse salariale, regardent l'évolution de la productivité, quand ils voient les surcoûts générés par les mesures sanitaires au demeurant utiles, évidemment, dans les entreprises, eh bien, quand les gens responsables et loyaux se mettent autour de la table pour résoudre le problème, eh bien, très souvent, pas toujours, mais très souvent, ils arrivent à des compromis locaux qui échappent en fait aux
grandes entreprises.
Qui échappe aux mots d'ordre syndicaux nationaux.
Ouais. Voilà, donc en bonne intelligence autour d'une table dans les entreprises. Merci beaucoup à tous les deux. Évidemment, ce débat, il va revenir sur la table régulièrement ces jours-ci. Vous reviendrez. Merci à vous. Après 20h, c'est musique. Émilie Mazoyer avec ce soir en invité Ben Barbeau, le patron du festival Hellfest, et le concert, celui des Stranglers au Royal Albert Hall de Londres, bien sûr. Et vous, c'est demain 18h-20h pour votre grand journal du soir et pour écouter ensemble le monde changer. Salut à tous, bonne soirée, merci.
C'était Nathalie Lévy sur Europe 1. Europe 1.